Bonjour! Bonjour tout le monde! Bonjour et bienvenue! Ça va? Bienvenue! J'ai pas bouffé, hein, voilà, on est sur des pâtes. On est sur des penne. Bonjour! Est-ce que ça va bien? Bonjour Laure, merci Laure, merci Ravilan, merci YoTV, merci Lalounia, merci Myopo. Merci le chop pour vos resubs. Bonjour à toutes et néanmoins à toutes. Bienvenue pour ce stream sessionnel. Et quelle heure? Il est 14h15. On va streamer jusqu'à. Oh là, oula, 19h. Jusqu'à 19h. Voilà. Parce que séance des questions d'actualité au gouvernement à partir de 15h jusqu'à 17h, puis à 17h30, conférence de presse de présentation de la réforme des retraites par Elisabeth Borne jusqu'à 19h. Ça va être sympa. Tu vas bien dormir. Bah là, en fait, je viens de dormir un peu parce que j'ai pas réussi à lutter contre. J'ai encore la trace de l'oreiller là. Et l'oreiller là. voilà. Le beau hâte. Ouais. Non, ça va être une après-midi trop cool. Séance de questions d'actualité au gouvernement. Into conférence de presse d'annonce de la réforme. Alors, parce que la réforme des retraites, elle a été décalée d'un mois dans son annonce, parce que c'était prévu de l'annoncer juste avant Noël, genre le 15 décembre. Finalement, ils ont dit non, non, on va faire ça en janvier. Pourquoi ils ont dit ça? Parce que Éric Ciotti a été élu président du parti Les Républicains. Or, le gouvernement s'est posé la question de savoir s'il n'avait pas un peu potentiellement besoin du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale pour voter tout ou partie de sa réforme. Du coup, ils se sont dit, on va se donner un mois de négociation avec Éric Ciotti. Ils ont décalé d'un mois, et du coup, c'est aujourd'hui qu'est annoncée la réforme des retraites. Ils se sont dit, il y aura moins d'audience sur la chaîne Twitch de Jean Massier un 10 janvier qu'avant Noël. Donc voilà. Donc on verra comment ce sera annoncé à 17h30. Ce qui est intéressant, c'est que la séance des questions d'actualité au gouvernement est à 14h30 et elle a choisi de faire sa conférence de presse après la séance de QAG. Elle aurait pu le faire avant pour ensuite répondre aux questions des députés. Hey! Mais comme le gouvernement se doute bien que l'Assemblée nationale va pas être une partie de plaisir dans le cadre de cette réforme, mais plutôt un axe potentiel de blocage et de cassage de burnes. Ils ont décidé de se dire, ben non, on présente après, niquez-vous, comme ça on gagne une semaine où ils vont pas nous emmerder. Évidemment, les députés sont pas débiles. Ils savent très bien, enfin ils se doutent bien de ce qu'il y aura dans la réforme qui sera annoncée à 17h30, donc ils vont quand même poser des questions sur le sujet pendant la séance de QAG. Donc là, à mon avis, aujourd'hui, ça va être quasiment full réforme des retraites. C'est pas à 15h les QAG? Si, c'est à 15h. Ça finit à 17h. Voilà. Donc il y a moyen que ce soit full réforme des retraites. Et on verra exactement comment ce sera présenté à 17h30, l'âge de départ à la retraite, le véhicule législatif, les aménagements spécifiques pour les carrières longues, pour les petites retraites, pour. Enfin voilà quoi. Retraite plus hôpital plus aide aux TPE. Il y aura aussi sans doute beaucoup d'annonces sur les aides aux TPE et aux PME sur la crise énergétique. Chèque énergie, tout ça, tout ça. Voilà. Est-ce que vous annoncerez demain les invités de la semaine de Baxit? Ah non, mais vous découvrirez tout ça sur Baxit. Voilà quoi. Merci Papineau, merci Goethe, merci pour vos resubs, merci beaucoup. On sait que la réforme des retraites, c'est pour financer Baxit. Si seulement. Si seulement. Merci Chu. Merci Fidel Castra. Il y aura peut-être des questions sur la chasse. Il y aura peut-être des questions sur la chasse, ouais. Suite là aussi aux annonces du gouvernement qui devraient pas tarder sur la prévention des accidents de chasse. Interdiction de la chasse du dimanche, oui, peut-être, pas sûrement et tout, machin, on verra. Sachant qu'il y aura également le vote solennel. Attends, parce que. Faut que je vérifie ça. C'est quand le vote. Hop, pardon, ça je me le mets là. C'est quand le vote sur le projet de loi de la production d'énergie renouvelable. Je crois que c'est juste après la séance des questions au gouvernement. Il y aura le vote solennel. Ouais. Le projet de loi d'accélération des projets d'énergie renouvelable est un projet de loi qui est porté par la ministre Agnès Pannier-Runacher. T'as l'air un peu enrhumé. Ouais, j'ai la narine droite qui est bouchée, mais ça va se déboucher parce que parce que je dormais là juste avant. Je suis pas réveillé. Donc, ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Agnès Pannier-Runacher, donc, qui a réussi à finement négocier sa réforme. Enfin, c'est pas vraiment une réforme, hein, c'est vraiment un projet pour accélérer et accompagner la mise en place des énergies renouvelables. Et à gauche, les groupes de la gauche ne savent pas trop quoi faire de cette réforme. Ils hésitent à la voter, pas la voter, s'abstenir, etc. Finalement, de ce que j'ai compris, les insoumis et les communistes vont voter contre. Les écolos vont s'abstenir et les socialistes vont voter pour. Voilà. Donc c'est un peu une victoire pour le gouvernement de réussir à obtenir des soutiens de la gauche sur un texte. Alors évidemment, c'est pas la réforme des retraites, mais Agnès Pannier-Runacher, visiblement, elle a. Voilà. La division de la NUPES. Ouais. Mais encore une fois, division de la NUPES, enfin, sur un sujet loin d'être stratégiquement important. Voilà. C'est tout l'intérêt d'une majorité relative à l'Assemblée. Franchement, c'est la meilleure configuration pour la cinquième, je trouve. Ah bah, c'est certain que le gouvernement d'Elisabeth Borne va pouvoir se prévaloir de faire du en même temps. On fait la réforme des retraites avec les Républicains, en même temps on fait la réforme, enfin l'accélération des énergies renouvelables avec les socialistes, on bosse avec la droite, la gauche, tout ça, c'est sûr que le gouvernement va pouvoir s'en targuer, ouais. Et en même temps, ils font des 49-3 quand ça bloque trop, notamment sur les lois budgétaires. Ouais. Politiquement, je comprends totalement la position de la NUPES sur le projet de loi des ENR, mais c'est vraiment dommage de voter contre si c'est un bon texte. Ah bah ça, c'est la question des petits pas. Faut-il accepter les petits pas qui vont dans la bonne direction, mais qui manquent d'ambition, qui vont pas assez loin? C'est une vraie question qui divise la gauche depuis toujours, hein. Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir des questions à la ministre des Sports sur Noël Le Graët? Le Graët. Je sais pas. Oui, c'est possible. En même temps, c'est pas le gouvernement qui dirige la FFF, donc. C'est un plat micro-ondes, ouais. C'est très mauvais pour la santé, tu ingurgites des particules de plastique. Tout va bien, je te remercie. Petite question, peut-être débile, il n'y a aucune question débile, t'inquiète pas. Si le 49.3 te permet de passer outre le vote, pourquoi le gouvernement ne l'utilise pas à chaque loi ou décision qu'il veut prendre? Parce qu'il ne peut pas le faire. Le gouvernement ne peut utiliser le 49.3 que sur une loi par an, pas plus, sauf pour les lois budgétaires, où là, il peut y avoir recours autant qu'il veut. Donc ce que tu décris, c'était un truc qui était possible avant, à l'époque, mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Voilà. Tu as ta réponse. Par rapport à l'énergie, est-ce que l'État aidera les particuliers quand ce sera la fin du tarif réglementé pour le gaz? Je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce que le vote solennel? Le vote solennel, c'est quand on vote une bonne fois pour toutes après avoir discuté. La discussion en séance publique, donc ce qu'on appelle la séance publique, c'est l'hémicycle, hein, c'est le truc que vous voyez à la télé le plus souvent, enfin à la télé, pardon, sur le stream de Jean Massier, abonnez-vous. Dans l'hémicycle, la discussion, elle s'organise toujours de la même manière. Sur une loi, on commence par une discussion générale, ensuite on discute des éventuelles motions de renvoi ou de rejet, ensuite on discute des amendements, et ensuite on fait le vote solennel. Donc c'est assez logique, vous allez comprendre. On commence par la discussion générale, c'est un moment où, avant de rentrer dans le détail, chacun des groupes de l'Assemblée va commencer par dire son opinion sur le texte, avant de discuter. Donc, ils prennent la parole les uns après les autres pour dire nous, on trouve que cette loi, c'est de la merde, c'est à chier, il n'y a rien à garder, vous êtes des nuls. Il y en a d'autres qui vont dire nous, on trouve que ce texte, il est intéressant, il va dans la bonne direction, mais il manque d'ambition, on voudrait qu'il aille plus loin. Il y en a d'autres qui viennent et qui disent, nous, ce texte, on le trouve absolument formidable, il est magnifique, il est génial, il est la solution qu'attendent les Français. Bref, chaque groupe s'exprime une première fois. Ensuite, on examine quelques motions, parce qu'il peut y avoir des motions de rejet ou des motions de renvoi, avant même de discuter des articles. Hein. Ça peut arriver, bon, elles sont jamais adoptées, on s'en branle. Ça prend un temps fou pour rien. Et ensuite seulement, une fois qu'on a donné une opinion sur l'ensemble du texte, on enchaîne sur la discussion sur les amendements. Donc là, on passe des heures et des heures à discuter de chaque amendement qui est défendu, pour savoir si on modifie le texte, comment on rajoute des mots, on retire des mots, on supprime des articles, on change des articles, on change le titre, machin et tout. Voilà, amendement, amendement. Ça prend le temps que ça prend. Ça peut prendre une semaine ou deux. Et à la fin, quand on a fini tous les amendements, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On fait un vote une bonne fois pour toutes. Et c'est ça qu'on appelle le vote solennel. Et c'est ça qui a lieu. Donc là, la loi en question sur le ENR, elle a été discutée en décembre, et le vote solennel est aujourd'hui. Et donc voilà, donc le vote solennel, c'est très simple. Pareil, les groupes se succèdent pour dire ce qu'ils pensent du texte maintenant qu'on a fini de le modifier. Ils avaient dit ce qu'ils en pensaient avant, ils disent ce qu'ils en pensent après. Voilà. Et donc ils disent. Il y en a qui disent ce texte, il est tout pourri, il est tout caca, c'était de la merde dès le début, nous on l'a toujours dit, on votera contre. Il y en a qui disent ce texte manquait d'ambition, néanmoins, grâce à nos amendements adoptés, nous avons obtenu satisfaction et nous voterons donc pour ce texte, maintenant que nous avons réussi à le faire modifier. Et il y en a d'autres qui disent ce texte, il était formidable dès le début, il est encore mieux maintenant, on va carrément le voter. Et voilà. Et après, on vote, terminé. Mais on vote. Une bonne fois pour toutes. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Bah, le texte, il part au Sénat et vous connaissez la suite de la chanson. Bah si, justement, ça c'est une étape de la navette. Ensuite, ça part au Sénat. Au Sénat, il se passe quoi? Exactement la même chose. Ensuite, ça revient. Et qu'est-ce qu'on fait? Bah, rebelote. Et ainsi de suite. Voilà. Vachement bien fait, hein. Comprenez pourquoi les députés ils sont pas là tout le temps dans l'hémicycle? Ils se feraient chier sinon, putain. La discussion générale, c'est l'emmerdement général, hein. Tout le monde se fait chier. Les questions, c'est à partir de quelle heure? C'est à partir de 15h. Est-ce qu'il y a un nombre limite de lectures avant la commission mixte? Non. La procédure classique, c'est deux lectures par chambre, puis commission mixte. La commission mixte, c'est quand on met des députés et des sénateurs dans la même pièce pour qu'ils négocient, pour essayer de trouver une solution parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord avec la navette. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle la procédure accélérée, qui permet de faire passer une loi en n'ayant qu'une seule lecture par chambre. Donc on fait juste Assemblée nationale, Sénat, CMP direct. Voilà. À quel point les amendements peuvent-ils être conséquents dans les changements qu'ils apportent à la loi? Dans une certaine mesure, ça a été limité, je me souviens, par une jurisprudence du Conseil constitutionnel sur la notion d'amendement. Je crois que c'était Jacques Chirac qui avait déposé des amendements dans lesquels il y avait l'intégralité du budget. Et là, le Conseil constitutionnel, il a dit, ouais, non. Peut-être pas déconner non plus. Mais on s'en fout en fait, c'est pas une question de nombre de mots et tout, c'est une question de quantité, enfin d'importance politique. Donc un amendement peut changer toute la loi. Hein. Est-ce que c'est l'Assemblée qui a le dernier mot? Ouais. Pour la majorité des lois, oui. Il y a certaines lois dans lesquelles l'Assemblée peut pas avoir le dernier mot, il faut forcément qu'ils se mettent d'accord, mais c'est marginal, la plupart c'est... Ouais. Que faisait Jean Massier avant le stream? Bah là, je dormais. Avant ça, je me masturbais. Enfin, je lisais un livre. Et hier soir, j'ai picolé. Voilà. Et ce matin, j'étais sur la chaîne de David Dufresne, le bro David Dufresne. On fait une émission sur les datas sur Twitch, c'est vachement bien. C'est pour ça qu'on a eu que 1h30 hier soir, tu allais en beuverie. Oh, les relous, quoi. C'est quoi le nom de sa chaîne? C'est Hugo Décrypte, tout attaché. C'était vachement intéressant l'émission, juste super effarant de voir à quel point le chat utilisait la cartographie pour lui faire dire tout et n'importe quoi. Ah oh bah ça c'est le jeu. Hein. Les stats, on leur fait dire ce qu'on veut. Hein. Regarde le rapport du Conseil d'orientation des retraites. Le gouvernement l'utilise pour dire qu'il faut absolument réformer le système parce que sinon on va tous mourir. Et Thomas Porcher, il l'utilise pour expliquer qu'il n'y a absolument pas besoin de modifier le système de retraite, il fonctionne très bien, il est à l'équilibre, il n'y a pas de problème. Et les deux ont raison. Comment les deux pourraient-ils avoir raison? Parce qu'ils regardent pas les mêmes indicateurs, c'est tout. Et ils n'ont pas la même lecture des chiffres. comment avance la cagnotte Baxit? Elle avancera plus vite quand tu auras sorti ta carte bleue et que tu auras fait ton meilleur don. Moi, je dis ça. Mais merci à toi de t'en inquiéter, en tout cas. Vous vous êtes rencontré comment avec Usul? Sur Tinder. Après, tu sais ce que c'est, hein. Le bleu de ses yeux, la douceur de sa peau. Des choses qu'on contrôle pas. Comme dirait Macron quand on est amoureux. Elles étaient bonnes, tes pâtes? Ouais, c'était bonne. C'est validé. On va dire que je suis un peu plus habitué à voir au moins des bases de socio-statistiques à gauche, mais ça doit être dans les cercles plus particuliers. Oui, sans doute, j'en sais rien. La question, c'est est-ce que 15 milliards d'euros de déficit, c'est supportable ou non? Exactement. Et on peut avoir des approches très différentes de la réponse à apporter. C'est à quelle heure les QAG? C'est à 15h, 5h, bougez pas, ça va arriver. Bonjour à vous, installez-vous confortablement, pensez à vous abonner, utilisez votre Prime d'Amazon, faites payer, faites raquer Jeff Bezos pour soutenir Jean Massier, ça vous coûtera pas plus cher. La dette est-elle réellement un problème? C'est en partie une question de point de vue, puis ça dépend aussi de quelle dette. Quelle dette, dans quel contexte, auprès de qui, dans quelle dynamique, dans quel contexte? J'ai l'impression de revenir 3 ans en arrière quand je t'ai découvert grâce au stream de l'Assemblée sur la réforme des retraites. C'est vrai ça? C'était en janvier 2020? La réforme Édouard Philippe, où je vous expliquais le système de retraite par points et tout, à l'époque. Vous vous souvenez de cette époque lointaine? Où on parlait de retraite par points. C'était incroyable. En plein Covid. C'était avant le Covid. C'était avant le Covid. J'ai tout oublié ces histoires. Ah, faut que je te réexplique du coup. Oh merde. L'époque Acropolis. Ah oh, non, Acropolis, c'était encore bien avant. C'est même la même réforme qu'en 2010. Non. Non, 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 non. Non, la réforme Éric Woerth, c'était pas ça. J'arrive des best-of YouTube perso, ça fait un mois que je te suivais avant de venir ici direct, Backseat Banger. Merci, merci à toi, bienvenue. Est-ce que tu seras touché durement avec cette réforme? Bah non, enfin pas plus que vous. Pourquoi je serais touché plus durement ou moins durement? De ce que j'ai compris, il n'est pas question de modification. Il n'est pas question de modification du taux de cotisation. Donc non, 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 je vois pas pourquoi je serais plus ou moins touché que vous, non, non. Et j'ai pas commencé à travailler à 17 ans, non, donc non. Non, non. Est-ce qu'on a des nouvelles des affaires de perquisition chez McKinsey et La République En Marche? Non, les enquêtes sont toujours en cours, j'ai pas d'infos. Je pensais que tu avais un régime style intermittent. Mais ça change rien. Enfin, intermittent, c'est. Ça change rien sur les cotisations retraite, hein. L'intermittent, c'est sur la question d'indemnisation chômage. Mais ça change rien à la retraite, hein. Intermittent, pas intermittent. Et confondez pas les régimes d'indemnisation, hein. Retraite, chômage, grossesse, accident du travail. Est-ce que les streamers sont considérés comme des intermittents du spectacle pour le chômage? Enfin, ça dépend lesquels. Il peut y en avoir qui ont le statut d'intermittent. Ça m'étonnerait, mais. Pourquoi ils donnent un âge de départ et pas une période pendant laquelle tu dois avoir travaillé? Ce serait plus juste. Tu défends la réforme Touraine. Donc oui, on en parlera tout à l'heure de toute façon des retraites à 17h30 quand on aura la présentation du truc. Mais c'est effectivement la différence entre la durée de cotisation et l'âge légal de départ. À quel âge est-ce qu'on part en retraite? À taux plein, sous-entendu à taux plein, et avec combien d'annuités de cotisation? Faut peut-être rappeler la décote, la surcote, tout ça. Bah, ça a été supprimé avec la suppression de l'âge pivot. Parce que la décote et la surcote, ça avait du sens quand il y avait un système par points avec un âge pivot. Si tu partais avant l'âge pivot, t'avais une décote. Si tu partais après, t'avais une surcote. Est-on vraiment en déficit sur la caisse des retraites? Oui. Mais c'est un déficit qui est comblé par l'État. Donc ça répond pas à la question. Est-ce que c'est satisfaisant que l'État vienne au secours d'un système qui ne peut pas fonctionner par lui-même? C'est en soi une question intéressante. Par ailleurs, cette année, on ne sera pas en déficit parce qu'on a un effet de reprise post-Covid avec 7% de croissance. Donc non, pas 7, quand même pas. On a combien de croissance cette année? 6%, je crois, 5-6. Donc banco, il y a du fric. Mais c'est que cette année, quoi. Et ça ne dit rien des prochaines années. C'est quoi l'impact du chômage sur les déficits des caisses des retraites? Bah, c'est un impact négatif parce qu'une personne au chômage, par définition, ne cotise pas pour sa retraite. Donc plus il y a d'actifs qui travaillent, plus il y a de cotisations qui rentrent dans la caisse. Donc ça améliore le déficit. Ça réduit le déficit, quoi. Tu peux expliquer une annuité? Une annuité, c'est 4 trimestres de cotisation. Donc quand on dit 40 ans, c'est 40 fois 4 trimestres. Jusque dans le mode de calcul des droits à la retraite, on utilise la notion d'annuité et de trimestre. Voilà, c'est tout. Techniquement, c'est une rotation de la Terre autour du Soleil, hein. Un chômeur ne cotise pas un trimestre par an, si. Mais pas plus. Donc c'est. Ouais. Trop technique. Mais non, c'est facile. La Terre, c'est un disque plat, ça, qui tourne autour du Soleil. Ah non, 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 qui tourne pas, pardon, qui est fixe. Et le Soleil qui tourne autour. Et tu comptes le. Ah bah non, du coup, ça marche plus. Ha Ça part mal déjà. Je me suis perdu dans ma blague parce que du coup, non mais. Ah oui, c'est ça. Tu comptes 365 tours du soleil et ça te donne une annuité de cotisation. Merci Justin. Quoi, la Terre est plate? Bah oui. Non mais on le sait aujourd'hui que la Terre est plate. Le tout posé sur une tortue, oui. L'équilibre possible en 2040, c'est grâce aux boomers qui vont approcher de la mort. L'équilibre possible en 2040, alors c'est très. Si vous lisez le conseil d'orientation des retraites, il explique très bien que c'est très difficile de faire des projections sur un système comme un système de retraite. En fait, ça dépend de tellement de sujets. Donc l'équilibre possible en 2040, ça dépend du taux de croissance d'ici à 2040, du taux d'amélioration de la productivité d'ici à 2040, ça dépend du taux de chômage d'ici à 2040, ça dépend de si on touche ou pas à la quantité d'argent que l'État met chaque année dans le système pour l'équilibrer, et ça dépend du poids que représente notre système de retraite dans notre PIB. Et tout ça, ce ne sont que des choix. Ça dépend beaucoup d'inconnus. Ça dépend, oui. Oui. Et donc d'ici à 2040, il peut se passer plein de trucs, hein. Il peut y avoir la prise de pouvoir de Mélenchon et la retraite à 60 ans. Il peut y avoir la prise de pouvoir de Philippe Poutou et la mise en place d'un salaire à vie non cumulable avec d'autres sources de revenus. Et la socialisation des moyens de production. Il peut y avoir la victoire d'Éric Ciotti et la privatisation de notre système de retraite où on passerait par des assurances privées pour cotiser et toucher des pensions. Pense vraiment ça, Ciotti? Non, 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 c'est une blague. La socialisation des moyens de production, c'est pas le meilleur système de retraite qu'on ait vu dans l'histoire. Il peut y avoir la victoire de Jean Massier et l'abonnement obligatoire à sa chaîne Twitch. Oui. Vous savez que quand vous vous abonnez à ma chaîne Twitch, ça compte dans votre trimestre de cotisation. Vous verrez dans 30 ans, vous pourrez aller voir votre conseiller ou votre conseillère de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et vous lui direz si, 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 j'ai été abonné à Jean Massier pendant 10 ans. Et il vous dira ah ouais, ah bah évidemment, du coup ça rajoute. Et du coup, vous pouvez partir à 60 ans à la retraite si vous êtes abonné à la chaîne Twitch de Jean Massier. Plus ou moins que la grossesse. Autant que la grossesse. Voilà, abonnez-vous, hein. Merci, c'est vous. Pardon, excusez-moi. Est-ce que tu fais des bons pour justifier tes amendements? Non, non, c'est à la confiance. Ça marche à la confiance. Merci pour vos abonnements, merci beaucoup. La grossesse en lien avec Jean Massier. Si c'est un enfant de Jean Massier, ça rapporte le double. Prise en compte de la pénibilité des jeux de mots pourris de Jean. Exactement. C'est la pénibilité des blagues de Jean Massier qui est prise en compte dans le calcul. Bon, hey, ça commence dans 10 minutes. Arrêtez de raconter des conneries, putain, on est sérieux ici. Ça commence dans 10 minutes, la séance de questions d'actualité au gouvernement. J'en profite pour remercier et souhaiter une très bonne année à l'équipe qui prépare cette émission. Merci beaucoup, les copains et copines. Merci Perceval, merci Tristenza, merci Otard, merci Frasque. Merci à vous. Moult bisous. Tout, 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 tout. Et donc la séance de questions au gouvernement, comme l'année dernière, c'est la même chose. Une série de 15 ou 16 questions posées par des députés de n'importe quel banc de l'Assemblée, une série de réponses à ces questions par les membres du gouvernement. Les députés peuvent poser les questions sur les sujets qu'ils veulent. C'est mieux si c'est un sujet d'actu, mais enfin bon, ils font ce qu'ils veulent. Le gouvernement est libre d'apporter la réponse qu'il veut aux questions, et ça peut être des réponses qui vous déçoivent. Il y a des députés de la majorité qui posent des questions. Il y a des députés d'opposition qui posent des questions. Voilà. Est-ce qu'il y a un thème pour la séance de questions? Non, il n'y a pas de thème. Les députés décident sur quoi ils veulent poser des questions. C'est eux qui choisissent. Ce sont eux les représentants du peuple. Ils sont libres de choisir ce qu'ils veulent comme sujet. Pourquoi la gauche dit que les actionnaires se gavent de dividendes et elle les contre une part de capitalisation dans les retraites? Ben justement, parce qu'elle veut pas que les actionnaires se gavent avec des cotisations retraites. Ça me paraît cohérent. C'est pas le mercredi, les jours de questions au gouvernement? Non. C'est au Sénat le mercredi. Est-ce que tu penses qu'un député va interroger le gouvernement au sujet de l'explosion de la centrale d'AZF près de Toulouse? C'est une explosion qui a eu lieu il y a 22 ans. Pourquoi tu voudrais que pose une question aujourd'hui? Il y a une raison? Je sais pas, non, j'en sais rien, il y a un procès, il y a un truc. Mais non, mais ça a déjà été jugé, ce truc-là. Pourquoi il poserait une question? La chute du mur de Berlin. L'assassinat de Kennedy. Ça doit être un anniversaire pour AZF. Non, c'était en septembre. Mais qu'est-ce que vous racontez aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous prend? Les émeutes de 1936. Cette con. La météorite qui a tué les dinos. On a fait une soirée avec toi, Jean Massier, hier, tu t'en souviens pas? Non. Bref, vous êtes con. Il est quelle heure? 14h53, ça va le faire. Est-ce qu'on connaît la liste des membres du gouvernement présents lors des QAG à l'avance? Non. Pas, moi je la connais pas et non. Non, non, non. Petite question sur le fait d'envoyer des presque chars d'assaut à l'Ukraine. Oui, sans doute, oui, sans doute. La France passe un cap dans son aide à l'Ukraine en acceptant d'envoyer des véhicules lourds pour soutenir les efforts de guerre ukrainiens. Ouais, donc, ouais. Il y aura probablement une question sur ce sujet. La réforme des retraites, il y aura très probablement des questions, sachant qu'elle sera annoncée à 17h30, mais enfin, les députés ne vont pas s'empêcher de poser des questions avant. Des véhicules occidentaux, des chars russes ont déjà été envoyés par l'Europe. Et par les Russes aussi. Les Russes ont abandonné quand même pas mal de véhicules sur le terrain qui ont été récupérés par les Ukrainiens. Je sais plus qui disait ça, ils disaient l'Ukraine est le premier pourvoyeur d'armes. La Russie est le premier pourvoyeur d'armes à l'Ukraine. Bon, c'est plus le cas, mais c'était les premières semaines. J'ai du mal à voir où est la limite de la co-belligérance. Ah, bah c'est le sujet compliqué, oui. Une question sur l'audit demandé à la Fédération française de foot. Oui, peut-être, sans doute. Le Noël Legrette, etc. Oui, peut-être. Peut-être, peut-être. Une question sur le foot français à l'issue de la Coupe du Monde. Je sais pas. Est-ce que Oudéa Castéra, la ministre des Sports, a une réponse à apporter là-dessus? Ça dépend comment il pose la question. Il y aura clairement une question, j'en suis sûr. Hein, je pense qu'il y aura des questions sur les soutiens aux TPE dans le cadre de la crise énergétique. Il y a quand même une trouille énorme de la part des artisans et commerçants sur leur facture d'électricité. Vous avez probablement entendu parler des boulangers qui utilisent des fours à pain, qui pompent beaucoup d'électricité, qui en plus achètent de la farine pour faire leur pain, qui a augmenté à cause de la guerre en Ukraine, etc. Bref, une grosse inquiétude de la part de pas mal de boulangers. Or, quoi de plus important que la baguette, finalement, comme symbole de l'inflation? Est-ce que la baguette va passer à 1,50 €? C'est possible. Question sur la chasse. Ouais, question sur la chasse, sachant que les annonces du gouvernement sur la chasse auront lieu en fin de semaine, je crois. Mais ça n'empêche pas de poser des questions. Hein. Oui. La baguette à 1,50 €, on va devoir manger de la brioche, les enfants. Non mais c'est intéressant, la baguette de pain c'est un symbole. C'est un symbole. C'est comme le prix du litre de carburant, c'est un symbole. Le jour où ça a passé la barre symbolique des 1 € le litre, on s'en souvient. Hein. Ou faire le pain soi-même si possible. Bon courage pour faire un pain. Qui te coûte moins d'1,50 € la baguette si tu le fais toi-même. En comptant l'amortissement de ta machine à pain achetée sur Amazon. Les annonces de sécurisation ont eu lieu hier, j'ai fait un thread. Ah bon, sur la chasse? Oh, j'ai pas lu. C'est quoi la morale de l'histoire? Il faut avoir une application, sinon sinon on meurt, c'est ça? Pour faire une baguette, il faut juste un four, pas une machine à pain. Ah bon? On m'aurait menti? Ils ont réussi à me refourguer une machine à pain à 300 balles alors qu'il n'y avait pas besoin? Non, c'est pas vrai, j'en ai pas acheté, j'en ai rien à foutre. Ah oui, ah mais oui, c'est vrai, en plus, je suis con, j'en ai entendu parler, tout le monde rigolait hier sur Twitter parce que ils vont interdire la pratique de la chasse avec en état d'ébriété. Sachez que vous n'aurez pas le droit de vous déplacer dans un espace public avec une arme à feu chargée tout en étant bourré. Important. Tiens, je vais essayer d'aller checker sur YouTube si on peut récupérer un. On va devoir commencer avec l'overlay dégueulasse de l'Assemblée nationale. Est-ce que l'Assemblée nationale a répondu à mon mail? L'Assemblée nationale, je leur ai envoyé un mail le 31 août 2021. On est le 10 janvier 2023. Ils m'ont informé que ma demande était en cours d'instruction. Allez pas vous faire un claquage, les gars. Hein. On y va mollo. Solide sur les appuis. 2021. Non, pardon, pas 2021, 2022. Faut relancer. Ah, mais j'ai relancé, hein. Ils m'ont poliment fait comprendre qu'il fallait que j'arrête de les relancer, par contre. L'autre solution, c'est d'envoyer un texto à la présidente si elle bonne pivée. Enfin bon, j'ai pas trop envie de l'emmerder avec mes problèmes. Elle a un peu de boulot quand même, la présidente de l'Assemblée. Mais un jour, ça va finir comme ça, quoi. Je dirais, il y a un moment, faut arrêter de déconner. Il est 15h. Ouais, il est 15h, ça va arriver, ça va arriver. Ils reçoivent tant que ça de mails à l'Assemblée? Ah bah j'espère pas. Tu flexes trop. Ouais, il n'y a pas grand-chose de flexant à dire qu'on n'a aucune réponse à une demande qu'on a faite à l'Assemblée. J'avais été contacté par l'Assemblée de Lituanie, je crois. On avait échangé par mail il y a 2 ans. Je crois que j'ai de meilleurs rapports avec l'Assemblée nationale lituanienne qu'avec l'Assemblée nationale française. Hop. Bon, ça commence quand là? Wesh, c'est bon, on est prêt. Avance. C'est imminent, hein. Hop. Ça commence, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, qui monte jusqu'au perchoir pour présider cette première séance de l'année 2023. Incroyable! Elle se place directement devant le bureau. Elle va ouvrir la séance.
Bonjour à tous.
Salut. Bonne année.
Bonne année
Allez.
2023.
Et surtout la santé, hein.
Entre vous et à vos familles et vos proches.
Allez, bonne année. Regardez, il y a des petits enfants là-haut.
Les questions au
Pardon.
gouvernement, et la première question va être posée par Monsieur Christophe Naegelen.
Christophe Naegelen, le député indépendant, qui pose une question.
Toute première question au gouvernement de l'année, je tenais à souhaiter à tous mes meilleurs vœux pour cette année 2023.
Meilleurs vœux.
Ça s'adresse surtout à nos concitoyens, des vœux de santé, mais aussi d'espoir et de courage.
Merci Christophe.
Monsieur le ministre de l'économie, j'aurais pu vous parlez de cette usine textile du Tillot qui a vu ses factures d'électricité annuelles passer de 1 million à 2 millions d'euros et qui se retrouve encore plus en difficulté face à la concurrence internationale. J'aurais pu aussi vous parler de ce boulanger de la Bresse qui, lui, a vu sa facture mensuelle passer du simple au double, l'obligeant ainsi à augmenter sa baguette de 30%, impactant ainsi
Mes
le
chers
quotidien des
collègues, est-ce que vous
ménages.
pouvez vous installer dans le silence pour qu'on puisse écouter la
En
première
réalité,
question de l'année? Merci.
ouais, tranquille.
Madame la Présidente,
Tranquille, tranquille, arrêtez d'être relou.
Enfin, vous parlez de ce restaurateur Romary Montin qui va devoir s'acquitter d'une facture de 90 000 euros alors qu'elle était de 9 600 euros l'an passé et qui, pris à la gorge.
Bougez
Cette
pas.
situation, loin d'être unique au territoire vosgien, impacte tous les Français, avec des conséquences à minima compliquées et parfois catastrophiques. Monsieur le ministre de l'économie, nous n'allons pas ici débattre de nouveau de ces causes, car ce qui intéresse avant tout nos concitoyens, c'est le futur, c'est demain et comment résoudre ces problèmes au plus vite. J'ai donc deux questions très simples.
Christophe Naegelen, il a 39 ans, il est gérant d'une société d'ameublement dans les Vosges. Il est député des Vosges, évidemment.
Le
Et
président
il pose la question dont on parlait tout à l'heure sur les artisans, les commerçants, les entreprises sur le prix de l'énergie. Il a donné quelques exemples qui viennent de sa circonscription.
De ce marché. Enfin, au niveau national, de nombreuses entreprises, principalement nos PME, ne sont pas concernées par les aides ou, quand elles le sont, rencontrent des difficultés importantes pour y avoir droit. Que comptez-vous faire pour ne laisser personne au bord de la route?
Christophe Naegelen, il est porte-parole du parti UDI, qui sont des giscardiens des libéraux. UDI, qui siège au sein du groupe Les Indépendants, parce qu'ils n'ont pas assez de députés. Allez, ça enchaîne. Attendez, faut juste que j'aille chercher un truc, bougez pas. Bruno Le Maire!
Président.
Incroyable. Bonne année, Bruno.
les députés. D'abord, j'adresse mes meilleurs voeux pour cette première question à l'ensemble de la représentation parlementaire. Et puisque vous m'y invitez, monsieur le député, je voudrais vous présenter les mesures d'aide que nous avons mises en place avec la Première ministre, avec le Président de la République, pour toutes les entreprises françaises qui font que les très petites entreprises dont vous m'avez parlé sont aujourd'hui les mieux protégées de toutes les petites entreprises de l'Union européenne.
Alors, ça commence par flex.
Petites entreprises.
La France, on protège mieux les entreprises qu'ailleurs.
Les millions d'entre elles ont droit aux tarifs régulés, sont protégées par le bouclier tarifaire. Aucun autre pays européen n'a mis de bouclier tarifaire en place pour les très petites entreprises, 5,5 millions. Il en restait 600 000. Elles ont lancé un cri d'appel à l'aide. Nous les avons entendues en leur garantissant, après une longue négociation avec les fournisseurs d'énergie, un tarif moyen de l'électricité à 280 euros le mégawattheure en moyenne sur l'année 2023. C'est une protection massive que nous leur apportons, très loin des 500-600 000 euros le mégawattheure qu'ils avaient dû payer. Tous les boulangers de France, tous les artisans, tous les très petites entreprises de moins de 10 salariés, tous les bouchers, toutes les professions qui aujourd'hui étaient inquiètes peuvent être rassurées. Leur facture ne dépassera pas 280 euros.
Bruno Le Maire, qui sait qu'il s'adresse aux entrepreneurs lorsqu'il dit ça.
Qui aurait encore des difficultés ont droit à un amortisseur qui réduit la facture de 20%. Et celles qui auraient encore des difficultés ont droit également à un guichet qui peut réduire l'augmentation de la facture jusqu'à 40%. Je le confirme, les très petites entreprises françaises sont protégées comme aucune autre petite entreprise dans l'Union européenne.
Voilà, c'était la réponse de Bruno Le Maire. Ah non, les PME.
Avec Olivia Grégoire et sur le marché européen de l'énergie, vous attendrez la question suivante pour que je vous apporte une réponse précise.
Boum. Christophe Naegelen, j'ai pas précisé qu'il était ancien champion régional de boxe française. C'est très important. Laurence Wisniewski pour le groupe Modem, qui fait partie de la majorité avec François Bayrou. Vous savez, le Modem, les centristes, le centre indépendant, tout ça, tout ça. Laurence Wisniewski, on l'écoute.
Je pense que ma question s'adresse à la fois à monsieur le ministre de l'économie et à madame Agnès Pannier-Runacher sur ce thème, effectivement, de l'augmentation du prix de l'électricité. Le 1er février prochain, la hausse des factures d'électricité des Français sera de 15%. Cette hausse, déjà considérable, est pourtant contenue par le bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement. Les Français ne comprennent pas cette explosion des prix, alors même que nous disposons de ressources énergétiques stables et pérennes, largement grâce à nos centrales nucléaires. Le système est opaque et son fonctionnement illisible. Nombre d'artisans et de commerçants risquent de ne pas passer l'hiver. Les alertes quotidiennes de nos boulangers en témoignent. Si nous devons accompagner nos entreprises et les ménages dans les médias, ce soutien ne peut être que temporaire. Nos finances publiques l'imposent. Pour contenir ces explosions de prix, c'est bien le fonctionnement structurel du marché européen de l'énergie qui doit être repensé. Le prix de notre électricité ne peut plus dépendre de celui du gaz. Monsieur le ministre, Madame la ministre.
Laurence Wisniewski, la députée Modem du Puy-de-Dôme, du côté de Clermont-Ferrand, qui pose une question sur le marché européen de l'énergie.
Du système européen qui paraît ainsi nous pénaliser.
Pourquoi on ne peut pas sortir de ce marché européen de l'énergie ?
Les obligations qui ont été accordées à l'Espagne et au Portugal. Nous savons que des discussions sont engagées avec nos voisins pour rendre le prix de l'énergie plus juste et plus conforme aux ressources de chacun. Où en sommes-nous ? Quand peut-on espérer aboutir ? Les Français nous attendent avec raison sur ce sujet déterminant pour notre économie et notre climat social. Je vous remercie.
Laurence Wisniewski, elle a 67 ans, elle est magistrate.
La parole est à madame Agnès Pannier-Runacher.
Elle a commencé chez Europe Écologie Les Verts avant de rejoindre le Modem. Alors, la question a le mérite d'être claire. Pourquoi on est toujours dans ce putain de marché européen de l'énergie ?
La présidente,
Agnès Pannier-Runacher.
Messieurs les députés, d'abord tous mes voeux pour cette nouvelle année. Et puis, madame la députée Wisniewski, merci de rappeler d'abord tous les efforts faits par le gouvernement et qui ont encore été à l'instant mis en avant par monsieur le ministre de l'économie pour protéger les Français contre l'augmentation de prix de l'électricité et l'augmentation du prix du gaz. Nous sommes le pays qui protégeons le plus nos ménages et nos entreprises contre l'augmentation de ces prix. Merci également de me donner l'occasion de dire que ce bouclier, il est en partie financé par une mesure qui a été prise au niveau européen. mesure qui permet justement de prendre la rente que génèrent ces hauts prix du gaz et de l'électricité et de faire en sorte de la redistribuer aux consommateurs. Et je crois que c'est très exactement le sens de notre action, c'est de faire en sorte que de manière équilibrée, les consommateurs puissent bénéficier de cet effet d'augmentation des prix et que cela leur revienne. Et cela permet de les protéger aujourd'hui. Enfin, vous m'interrogez sur la réforme du marché de l'électricité. D'abord, sachez qu'effectivement, cela fait 2 ans que nous avons entamé des discussions pour découpler le marché du gaz du marché de l'électricité. Mais je veux rappeler une chose. Si nous sommes aujourd'hui dans le marché européen et si nous passons l'hiver dans de bonnes conditions, c'est parce que nous bénéficions des exportations d'électricité de l'Espagne, de l'Allemagne, lorsque notre propre système électrique est en tension. Et si les prix de l'électricité ont augmenté, ce n'est pas seulement la faute...
La réponse d'Agnès Pannier-Runacher qui dit poliment le marché européen de l'énergie, on a beau dire que c'est tout caca, heureusement qu'il est là pour nous apporter l'électricité quand on en a besoin.
Alors l'action du gouvernement, elle est très claire, une action déterminée pour la réforme du marché de l'électricité en Europe, mais également une action déterminée pour renforcer notre système électrique, et vous aurez l'occasion de le faire en votant le projet de loi
sur les énergies renouvelables, qui sera voté plus tard. Alors,
le président Marleix.
Olivier Marleix, le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, un homme important.
La droite française a toujours assumé, de Jacques Chirac à Nicolas Sarkozy, de réformer les retraites pour sauvegarder notre système par répartition. La répartition, c'est un principe de solidarité dans lequel c'est le travail des Français qui finance les retraites. C'est le contraire du chacun pour soi. C'est le système le plus protecteur pour les Français les plus modestes. Aujourd'hui, ce système est menacé. Là où il y avait 4 actifs pour un retraité dans les années 70, il n'y en a plus qu'1,7. Les déficits annoncés auront une conséquence et une seule, la baisse du niveau des pensions pour les retraités. Et nous le refusons. La réforme que nous voulons, elle tient en quelques principes. D'abord, elle doit être progressive. Le recul de l'âge ne doit intervenir qu'au rythme d'un trimestre par an, jusqu'à 63 ans à la fin de ce quinquennat, 64 ans dans le suivant. Ensuite, elle doit être juste et permettre à celui qui a commencé plus tôt de partir à la retraite, plus tôt dès lors qu'il a tous ses trimestres. Elle doit aussi être équitable en demandant le même effort à tous les Français, public, privé, régimes spéciaux. Enfin, soyons clairs, il est hors de question que l'État s'empare des réserves du privé. L'argent des retraites doit aller aux retraités et à eux seuls. Mais par-dessus tout, il faut réparer une injustice. Ces 2 millions de retraités qui ont cotisé toute leur vie ont travaillé dur, ont des carrières complètes, souvent des femmes, des commerçants, des artisans, qui perçoivent aujourd'hui des retraites indignes autour de 900 euros par mois. C'est indigne d'un grand pays comme le nôtre. Êtes-vous prête, Madame la Première Ministre, à leur garantir à eux aussi une retraite minimum de 1200 euros et pas seulement aux futurs retraités? Je vous le dis très clairement, c'est pour nous une condition impérative.
Une condition impérative, pourquoi? Pour voter la réforme? Olivier Marleix, en tout cas, qui vient de rappeler quelles étaient les conditions que mettaient les Républicains à l'éventuel vote d'une éventuelle réforme. Elisabeth Borne, qui sait qu'elle commence cette année 2023 avec la bataille des batailles, la mère des batailles, la réforme des retraites. Regardez-la s'exprimer en parlant à la droite, elle a tellement besoin d'eux pour voter ou s'abstenir.
Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Marleix. Je voudrais profiter de cette première question d'actualité pour souhaiter mes meilleurs vœux à l'ensemble des députés, à leurs collaborateurs et aux services de l'Assemblée nationale.
Ainsi qu'aux viewers de Jean Massier sur Twitch.
Alors, Monsieur le Président Marleix, vous nous interrogez sur notre projet pour les retraites.
Alors,
vous le comprendrez, les quelques minutes qui me sont accordées dans le cadre de ces questions d'actualité au gouvernement ne vont pas me permettre de vous exposer la totalité de ce projet. Mais vous aurez l'occasion d'en débattre très rapidement. Et je sais combien le sujet des petites pensions vous tient à cœur et importe à votre groupe.
Alors, les petites pensions.
Nous en avons parlé à de nombreuses reprises lors de nos rencontres depuis octobre pour préparer le projet de réforme des retraites. Vous le savez, j'ai eu l'occasion de le dire, cette préoccupation, je la partage, mon gouvernement la partage. Dès la campagne, le président de la République avait pris l'engagement de porter le montant de la pension minimale à 85% du SMIC pour une carrière complète, soit bientôt 1 200 euros par mois. Dans quelques heures, je serai donc amené à présenter notre projet pour les retraites, mais je vous le confirme, Monsieur le Président, l'engagement du Président de la République sera tenu.
Donc confirmé.
C'est un progrès social.
Confirmé, c'est un spoil de la réforme qui sera annoncée sur la chaîne Twitch de Jean Massy à 17h30. Il y aura bien un minimum vieillesse à 1 200 euros. Alors c'est un minimum vieillesse ou un minimum contributif par contre ?
Pension. 60% sont des femmes qui ont souvent eu des carrières incomplètes, des carrières hachées. Ce sont aussi des indépendants, des artisans, des commerçants qui ont passé une vie de travail sans pouvoir se verser un salaire suffisant. Alors, Monsieur le Président Marleix, nous avons également échangé ces derniers jours sur la situation des retraités qui, après toute une vie de travail, avec un revenu modeste, touchent aujourd'hui de très petites pensions. Je vous confirme, Monsieur le Président, que j'ai bien entendu la demande de votre groupe. Nous partageons cette préoccupation. Une carrière complète doit permettre d'avoir une pension digne. J'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure, mais nous sommes prêts à y travailler.
J'ai cru comprendre que c'est bien un minimum contributif. Donc si vous avez vos 40 annuités, vous ne pouvez pas toucher moins de 1 200 euros, soit 85% du SMIC.
Pour le groupe La France Insoumise.
On enchaîne avec Clémence Guettet pour le groupe LFI. Après ce premier échange sur le système des retraites.
Madame la Première Ministre, après avoir juré de ne pas toucher à l'âge de la retraite, Monsieur Macron a un nouveau projet. La nécessité impérieuse, urgente, et cette fois-ci la retraite à 64 ans. Pour combler le léger déficit à venir, surtout pas de cotisation sur les dividendes ou les très hauts salaires. Surtout, il vous faut continuer à empiler les cadeaux fiscaux. Même si, au passage, vous allez faire bondir les dépenses pour financer RSA, invalidité et chômage. Parce qu'aujourd'hui, à 62 ans, celles et ceux qui ne sont pas encore à la retraite sont déjà 40% à ne plus travailler. Demain, ils seront plus nombreux encore à être malades, cassés par le travail, plongés dans la précarité, au chômage de longue durée, instrument superflu de votre nouveau monde. Grâce à l'appui de la droite, vous prévoyez d'enlever de la vie aux années et des années à la vie. C'est en effet 15 000 personnes de plus qui mourront chaque année avant la retraite. Ce jour, Madame la Ministre, dissipe le flou sur vos intentions. Pour un cariste qui a commencé à travailler à 18 ans, ce sera 2 ans de plus. Pour une aide-soignante, mère de 2 enfants, qui a commencé à 21 ans, 2 ans de plus aussi. Le couperet que vous allez faire tomber va s'abattre sur des corps, sur des familles et sur des vies.
Clémence Guettet, elle a 31 ans, elle est députée du Val-de-Marne, du côté de Créteil. Elle est ancienne secrétaire générale du groupe Insoumis à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que sous la précédente mandature, elle était collaboratrice du groupe. C'était une collaboratrice très importante. Et elle a depuis été élue députée. Clémence Guettet, réputée proche de Jean-Luc Mélenchon, qui profite de cette question au gouvernement pour rappeler la manifestation organisée par des organisations de jeunesse prévue pour le 21 janvier.
Du temps libéré pour soi, pour les siens, pour les autres. C'est le sens du progrès social qui se combine aujourd'hui à l'urgence écologique vers la réduction du temps de travail. Alors, Madame la Première Ministre, renoncez.
Je vous remercie.
Voilà, il n'y a pas de question. Un appel au renoncement de cette réforme du travail. On écoute Olivier Dussopt, le représentant de l'aile gauche de la majorité présidentielle, qui va à son tour défendre la réforme des retraites. C'est lui, Olivier Dussopt, qui défendra cette réforme au banc.
Nous dites, est-ce qu'il y a urgence ? Oui, il y a urgence, madame. Il y a urgence parce que le rapport du corps, le corps composé...
C'est d'orientation des retraites.
...montre que dès 2027, ce sont 12,5 milliards d'euros de déficit. Que dès 2030, c'est 15 milliards d'euros. Qu'en 2035, c'est 20 milliards d'euros. Qu'en 2040, c'est 25 milliards d'euros de déficit. Et si vous considérez qu'il n'y a pas urgence, c'est parce que vous acceptez le risque de casser le système de retraite pour nos enfants, de leur léguer un système de protection sociale au rabais, assommé par la dette, étouffé par les impôts. Nous considérons que l'équilibre est nécessaire Nous considérons que le premier règle de protection, le premier règle de solidarité, c'est de sauver le système par répartition. Et sur le deuxième point que vous avez évoqué, Madame la députée, vous parlez des mesures que nous allons annoncer tout à l'heure. Vous parlez sans savoir. Vous parlez sans savoir et vous pensez sans penser. Vous êtes le seul groupe à n'avoir formulé aucune proposition, aucune alternative, à ne pas avoir participé aux concertations et à ne pas avoir joué le jeu du dialogue républicain. Nous allons mener cette réforme pour les Français, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Et nous n'allons pas sombrer dans la démagogie qui est la vôtre. La retraite à 60 ans, c'est 85 milliards d'euros par an. Où est-ce que vous les prenez ?
Dans les poches du patronat. C'est bon, j'ai bon ?
Merci beaucoup, monsieur le ministre.
En tout cas, ce premier échange promet des débats sacrément chauds à l'Assemblée nationale. On écoute Éric Woerth.
C'est un jour important, puisqu'après un dialogue intense, le gouvernement va présenter le contenu.
C'est un bonhomme important, Éric Woerth. C'est lui qui avait mené la réforme en 2010. C'est
indispensable.
Éric Woerth, ancien président de la Commission des Finances, ancien Les Républicains, qui a quitté Les Républicains pour rejoindre Renaissance.
On sait 25 années de déficit, si on ne fait rien. Il nous faut apporter des réponses solides pour protéger le régime par répartition, qui est l'expression d'une chaîne de solidarité intergénérationnelle. Cette réforme, elle doit être efficace. Lorsqu'on parle de retraite, on parle d'âge. Chacun pense immédiatement à l'âge. Et refuser, comme certains voudraient le faire, de parler de l'âge, ce serait éclipser le débat. Un peu comme si on parlait de mariage sans parler d'amour. Gouverner, c'est affronter la réalité. Je comprends bien que l'augmentation de l'âge de départ fasse politiquement peur, mais la politique, c'est d'abord du courage. Cette réforme, elle doit être efficace, mais elle doit être juste. La retraite est le reflet des choix professionnels et familiaux de chacun. Au sein du système de retraite, il existe une multitude de dispositifs qui viennent adoucir les inégalités accumulées tout au long de la carrière professionnelle. Cependant, ce n'est pas au seul régime de retraite de résoudre les injustices de la vie. Il faut les résoudre avant. Si le rapport au travail évolue en fonction de l'expérience et de l'âge de chacun, la notion de pénibilité est centrale. Et seule la prévention permettra réellement de la diminuer à la racine et de réduire l'usure physique au travail. Une réforme des...
Ça n'empêche pas de la prendre en compte dans le calcul des pensions de retraite, mais oui.
Augmenter l'âge de départ, c'est changer le regard de notre société sur le travail. À ce titre, le rôle de chaque entreprise est fondamental. Le degré d'implication des entreprises dans la durée conditionne le succès de la réforme et les pouvoirs publics devront accompagner les entreprises pour qu'elles puissent le faire. Ainsi, monsieur le ministre, je n'ai aucun doute que le dialogue avec les entreprises est aujourd'hui fructueux. Je voudrais simplement, au travers de cette réponse, pouvoir avec vous le vérifier.
Je vous remercie.
Voilà, où est-ce qu'on en est dans la discussion avec les acteurs professionnels et les entreprises sur la prise en compte de la pénibilité, sur la prévention de la pénibilité surtout? On écoute à nouveau Olivier Dussopt, le ministre.
Votre question me permet d'abord de répéter, de souligner l'importance qu'il y a à mener cette réforme pour établir l'équilibre du régime de retraite. J'ai eu l'occasion de le dire à maintes reprises, améliorer le déficit sans l'équilibrer n'est pas responsable. L'équilibrer sans l'améliorer serait injuste. Et donc c'est bien l'amélioration et l'équilibre que nous recherchons. Nous le faisons dans le dialogue social avec tous les partenaires sociaux. Ils ont tous participé aux concertations que nous avons menées au cours des dernières semaines. Nous avons construit des convergences, nous avons aussi acté un certain nombre de désaccords et la transparence du dialogue social, de la démocratie sociale, commande aussi de dire lorsqu'il y a des accords ou différends et tout simplement de les assumer. Nous attendons effectivement beaucoup des entreprises. Nous attendons beaucoup d'elles puisque nous construisons aujourd'hui un système qui permet à la fois de mieux prendre en compte l'emploi des seniors. Nous pouvons construire des indicateurs, nous pouvons faciliter les transitions, mais pour que l'emploi des seniors soit au rendez-vous de cette réforme et au rendez-vous du plein emploi, il faut aussi un changement dans l'attitude des dirigeants qui gèrent les ressources.
C'est-à-dire que l'enjeu de l'emploi des seniors va devenir central, surtout si tu repousses l'âge légal.
Comme un coût, et en particulier un coût salarial. Nous avons aussi besoin de l'engagement des entreprises sur les questions de prévention de pénibilité, de prévention de l'usure, et là aussi c'est le dialogue social que nous voulons retenir comme méthode pour permettre justement la mise en place de plans de prévention qui soient des plans massifs, permettant tout simplement à des salariés d'aller jusqu'au bout de leur carrière sans être abîmés par leur travail, sans être cassés par le labeur.
Donc plan de prévention sur la pénibilité et dialogue social dans le cadre de l'emploi des seniors.
De mobiliser les entreprises pour que l'ensemble de cette réforme puisse être menée avec la progressivité nécessaire, que beaucoup appellent de leur vœu, et la volonté de retrouver un équilibre.
Salut David. Oui, on parle d'âge légal de départ à la retraite, ouais.
le gage de confiance qui s'est noué avec nos interlocuteurs représentant les différentes strates d'entreprise. Nous le faisons en cohérence avec la politique économique qui est la nôtre. Et ce que nous mettons en œuvre comme réforme des retraites est une réforme qui n'est pas contradictoire avec notre politique de compétitivité. Nous continuerons à diminuer le coût du travail.
Je vous remercie, Monsieur le Ministre. La parole est au Président Chassaigne pour le groupe.
Le Président Chassaigne, c'est le Président du groupe communiste à l'Assemblée nationale, André Chassaigne, qui va poser une question à son tour au gouvernement.
Madame la Première Ministre, vous allez nous annoncer dans quelques heures le contenu de votre réforme des retraites, négociée avec les Républicains, une réforme brutale, une réforme de droite. Vous prétextez, pour la justifier à une urgence, la faillite de notre régime de retraite. Quelle urgence ? Un déficit pour les 10 années à venir qui, loin de mettre en péril notre régime de retraite, pourrait être facilement résorbé. Rien sur le plan économique ne justifie un recul de l'âge de départ à la retraite, rien sauf votre enfermement idéologique. Nous vous demandons donc de renoncer à votre texte qui pénalisera tous les travailleurs et aggravera les injustices existantes. Si vous persistez en dépit du bon sens, nous nous avons imaginé que vous nous empêcherez d'en débattre, Madame la Première Ministre, que vous nous empêcherez de faire des propositions pour améliorer notre système de retraite par répartition. C'est pourtant ce que vous ferez si vous choisissez de présenter votre réforme via un PLFSS rectificatif.
Je vous expliquerai ça après.
Une manœuvre digne d'ennemis de la démocratie, une manœuvre permettant de profiter des délais constitutionnels imposés par son examen et empêcher ainsi les oppositions de mettre en débat leurs propositions de réforme sous peine de voir votre projet mis en œuvre par ordonnance.
André Chassaigne, il est député de la 5e circonscription du Puy-de-Dôme. Il a 72 ans, c'est un ancien prof d'histoire-géographie. Il a aussi été principal de collège, André Chassaigne. Il est président du groupe communiste à l'Assemblée nationale. Il est proche de Fabien Roussel au sein du Parti communiste.
Près de 85% de la population a travaillé plus longtemps. Cette confiscation du débat serait un nouveau coup, un coup terrible pour notre démocratie. À rebours, nous portons l'étendard de la démocratie pour décider de l'avenir de nos retraites. Renoncez à votre réforme.
Merci.
Oui, renoncez à votre réforme. À défaut, nous porterons l'exigence d'un référendum.
Merci.
Pour que ce soit au peuple, au final, qui tranche.
Merci, monsieur.
Les communistes demanderont un référendum sur la réforme des retraites. On écoute Elisabeth Borne qui va lui répondre. Quand c'est un président de groupe qui pose une question, c'est toujours la première ministre qui répond en personne.
Chassaigne, je pense que nous pouvons être d'accord sur un point. La retraite par répartition est au cœur de notre contrat social. Elle est au fondement de la solidarité entre les générations. Mais aujourd'hui, comme le montre le rapport du Conseil d'orientation des retraites et comme le constatent nos concitoyens eux-mêmes, le nombre d'actifs par rapport au nombre de retraités ne cesse de diminuer.
Eh oui, les boomers vieillissent.
Les conséquences que chacun connaît. Les déficits s'accumulent et nous devons agir vite. Et c'est bien ce que le président de la République a porté lors de sa campagne. Nous avons été clairs avec les Français. Alors depuis des mois, nous menons une concertation intense avec le ministre Olivier Dussopt, avec les partenaires sociaux. Tous ont participé aux échanges avec les groupes politiques. Et j'ai rencontré à plusieurs reprises les présidents de tous les groupes parlementaires. Et je voudrais vous remercier, Monsieur le Président Chassaigne, comme l'ensemble de vos collègues à l'Assemblée et au Sénat, car chacune des rencontres, même lorsque nous sommes en désaccord, a été utile pour faire progresser le projet. Nous avons montré par le passé, Monsieur le Président, que nous pouvions trouver des points d'accord. Nous l'avons vu sur votre proposition de loi pour revaloriser les retraites agricoles.
Ouais.
Donc, Monsieur le Président Chassaigne, avec le...
C'est vrai que c'est les communistes qui ont réussi à faire adopter une proposition de loi en faveur de l'augmentation des retraites agricoles.
Devant vous revenir sur quel...
C'était les communistes ou c'était les... Mais non, c'était les républicains.
Les retraites et rien d'autre que les retraites. Nous refusons d'augmenter le coût du travail ou les impôts. Nous refusons de baisser les pensions. Au contraire, nous voulons les
augmenter. Attends, mais je me souviens plus.
Nous voulons un retour à l'équilibre de notre système.
C'était communiste.
À l'horizon 2030.
Ouais, c'était bien Chassaigne.
C'est pourquoi, pour l'avenir de nos retraites, nous devrons progressivement travailler plus longtemps. Mais ça n'est pas tout. Nous portons un projet de justice en tenant compte des carrières longues, en tenant compte de la pénibilité de certains métiers, en s'assurant que le même métier donne la même retraite. Nous défendons un projet porteur de progrès social. Nous augmenterons la pension minimale pour les futurs retraités à près de 1 200 euros net par mois. Nous redonnerons toute leur...
Donc Elisabeth Borne qui essaye de mettre en avant tous les éléments d'amélioration du sort des retraités.
Comme je l'ai déjà indiqué,
dans sa réforme.
Le projet de loi sera présenté en Conseil des ministres le 23 janvier. Il sera ensuite débattu dans votre Assemblée. Je note que les députés de la NUPES ont beaucoup parlé de démocratie ces dernières semaines. J'espère que les actes suivront les mots. J'espère que le débat pourra se dérouler dans les meilleures conditions, sans obstruction, autour d'un débat de fond et d'idées.
Elisabeth Borne, elle a du nez. Elle se demande si les députés de la NUPES vont jouer le jeu de l'obstruction. La NUPES va-t-elle chercher à bloquer au maximum le gouvernement ? On écoute Marine Le Pen, présidente du groupe Rassemblement National à l'Assemblée nationale.
À la Première ministre, il y a un an, lorsque vous étiez ministre du Travail, vous aviez commandé le rapport RL pour la reconnaissance des métiers de deuxième ligne. Ces métiers que l'on ne peut pas exercer à distance, sur lesquels la France s'est reposée durant la crise Covid. Conducteurs, agents d'entretien, caissiers, ouvriers de la manutention ou encore charcutiers et bien sûr boulangers. L'objectif était alors de revaloriser ces métiers absolument essentiels à la vie de la nation. Vous voici à Matignon. Et comme le rappelle France Info, 80% des boulangers risquent la faillite. Et c'est désormais en première ligne que vous les laissez face aux énergéticiens pour renégocier leurs contrats. Pour stopper cette flambée des prix de l'électricité, ça devrait être à vous d'être en première ligne pour enfin renégocier les clauses du marché européen de l'énergie en dissociant le prix du gaz de celui de l'électricité. À l'image de nos boulangers et plus largement de nos artisans et commerçants, en ce début d'année 2023, une grande partie de nos compatriotes sont fatigués. Un Français sur deux se dit révolté face à la situation économique du pays et près de 8 Français sur 10 craignent une explosion sociale. Un niveau jamais enregistré depuis 24 ans. Alors dans ce contexte, pensez-vous sincèrement, Madame la Première Ministre, qu'il est bon pour le pays de débuter cette année en nous proposant tout à l'heure une réforme des retraites en vue de décaler l'âge de départ à la retraite à laquelle 70% des Français sont opposés ?
Marine Le Pen, deux fois au second tour de l'élection présidentielle, présidente du Rassemblement National, ancienne présidente du Rassemblement National. Elle a 54 ans, elle est avocate, députée du Nord-Pas-de-Calais, du côté des Nimbeaumont, comme vous le savez. Elle avait axé sa deuxième campagne présidentielle, en tout cas la dernière, celle de 2022, sur le sujet du pouvoir d'achat.
De qualité pour enfin relancer la productivité de notre économie.
Marine Le Pen, donc, elle aussi s'oppose au projet de réforme des retraites.
La parole est à Madame la Première Ministre.
On écoute Elisabeth Borne qui répond à la présidente du groupe RN.
Madame la députée, Madame la Présidente Le Pen. Alors je vous confirme, Madame la Présidente, que notre objectif, l'objectif de mon gouvernement, c'est de protéger les Français. C'est de les protéger face à la hausse des prix de l'énergie. C'est le sens du bouclier tarifaire. C'est le sens des mesures pour les entreprises, pour les collectivités que nous avons portées dès cet été dans le paquet pouvoir d'achat et dans les textes financiers adoptés à la fin de l'année. Et je note, Madame la Présidente, que le Rassemblement national a voté contre tous ces textes. Donc malgré le Rassemblement national, nous pouvons proposer un amortisseur pour baisser la facture d'électricité des Français dans le cadre de la loi de finances. Nous pouvons proposer des aides.
Ah ben non, ils n'ont pas voté contre, puisque
la marge dégagée.
Il y avait des 49.3.
Et c'est ce que nous faisons. Le ministre de l'économie a eu l'occasion de rappeler l'ensemble des dispositifs qui sont mis en œuvre pour protéger nos boulangers, nos artisans, nos très petites entreprises. Dès cette semaine, nos artisans peuvent s'adresser en préfecture pour notamment avoir accès à l'ensemble des aides qui permettent de prendre en charge jusqu'à 40% de la hausse de la facture d'électricité. Tous ceux dont les tarifs sont supérieurs à 280 euros du mégawattheure auront une nouvelle proposition de leur fournisseur d'électricité. Et par ailleurs, Madame la Présidente, nous protégeons notre économie, nous protégeons les Français aujourd'hui, mais nous protégeons aussi l'avenir des Français, l'avenir de nos retraites. Et c'est le sens du projet de justice
Elisabeth Borne, qui vient sein de la gauche.
Que je présenterai dans les prochaines...
Quand elle répond à Marine Le Pen, elle est en colère et elle gueule. Quand elle répond à André Chassaigne, elle est polie, elle le remercie pour sa participation à la discussion et au dialogue.
Pour le groupe Renaissance.
Marie Lebec, députée Renaissance.
Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, alors que la conjoncture économique reste difficile avec la permanence de la guerre en Ukraine, la réouverture économique désordonnée de la Chine ou encore l'instabilité des prix de l'énergie, notre économie résiste. Les résultats sont là. Une croissance positive à 2,5% en 2022, le cap du million d'entreprises créées, 300 000 emplois créés sur les trois premiers trimestres de 2022, dont 62 000 emplois industriels nets. Elle résiste grâce à l'engagement de tous, au premier rang desquels nos entrepreneurs et leurs salariés. Je tiens ici à saluer leur persévérance et leur résilience, alors que le contexte national, européen et international aurait pu les décourager d'investir et d'innover. Mais également grâce à la réactivité du gouvernement et de l'ensemble des services déconcentrés de l'État. À ce titre, l'annonce la semaine dernière...
Les services déconcentrés, c'est les préfectures.
...la volonté de s'appuyer sur notre réseau de préfectures a été saluée par les acteurs économiques qui ont en mémoire leur très grande réactivité durant la crise du Covid, ainsi qu'à l'occasion du déploiement du plan de relance.
Si maire, les préfets... Ah oui, c'est vrai, c'est les préfets qui ont géré les plans de relance dans les territoires.
...complétés par l'amortisseur d'électricité ont été des premières réponses. Ils ont permis de protéger la très grande majorité de nos PME éligibles aux tarifs régulés. Néanmoins... Aucun de nous ici sur ces bancs n'a été sourd aux appels de nos boulangers, de nos bouchers, de nos restaurateurs quant aux difficultés croissantes qu'ils pouvaient rencontrer face à l'augmentation de leurs factures. Or, ils sont parfois les derniers acteurs économiques de nos centres-villes. Par ailleurs, Monsieur le Ministre, depuis plusieurs années, vous avez engagé une bataille en faveur de la réindustrialisation de notre pays. Nous l'avons vu depuis 5 ans déjà, la France est redevenue le premier pays européen en termes d'attractivité. L'industrie est une condition nécessaire pour faire de notre pays une nation puissante et souveraine. Par ailleurs, nous croyons dans la majorité, comme au gouvernement, à la capacité de notre industrie à se verdir.
Elle est où la question ?
Comme vous l'avez rappelé, Monsieur le Ministre, l'ensemble des acteurs économiques doivent désormais être mobilisés pour agir en faveur de la réussite économique de notre pays. Seul, l'État ne peut rien. Si ces batailles économiques sont d'immenses défis pour l'année à venir, elles ne doivent pas nous faire oublier les bons résultats que nous connaissons depuis 5 ans. Aussi, Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous dire quelles sont les perspectives économiques pour 2023 ?
Merci. Ah ouais, t'es vraiment à chier la question. Marie Lebec, 32 ans, ancienne lobbyiste dans un cabinet spécialisé en affaires publiques européennes et françaises. Elle est aujourd'hui députée de la 4e circonscription des Yvelines. Elle était déjà députée depuis 2017, c'est son deuxième mandat. On écoute la réponse de Bruno Le Maire.
Certains nous expliquaient que nous allions entrer en récession, que la production industrielle allait s'effondrer, que le chômage allait repartir à la hausse et que nous aurions des coupures d'électricité cet hiver, faute de réacteurs nucléaires. Oui, c'était vous. Le résultat...
Alors, le résultat...
C'est qu'aujourd'hui, nous avons une croissance de 2,5% en 2022, que la croissance 2023 sera positive, que l'indice de la production industrielle en novembre a été positif
au dernier trimestre.
Nous avons continué à créer au dernier trimestre des dizaines de milliers d'emplois en France, qu'il n'y a pas eu de coupure d'électricité et qu'au contraire, les ingénieurs, les ouvriers, les salariés d'EDF viennent de remettre aujourd'hui en état les 45 gigawatts qu'ils avaient promis pour la mi-janvier. Nous sommes le 10 janvier, les 45 gigawatts ont été remis sur le réseau par les salariés, par les ingénieurs, par les ouvriers, par les soudeurs d'EDF. Alors oui, la France résiste, oui, l'économie française résiste, oui, la croissance française résiste, et résiste même mieux que celle de ses partenaires. Et donc il faut poursuivre dans cette dynamique.
Bruno Le Maire, en tout cas, qui profite de cette question de Marie Lebec pour se targuer des bons résultats économiques de la France en 2022, de l'absence de coupure de courant, même si bon, il a fait chaud quand même pendant les vacances.
Le précédent quinquennat, c'est la première fois depuis des décennies que la France recrée des emplois industriels et rouvre des usines. Et bien avec ce projet de loi d'industrie verte, nous allons à nouveau accélérer cette industrialisation de la nation française pour faire de la France...
Bruno Le Maire, évidemment, vous l'aurez compris, il est en train de parler de son propre bilan en disant tout ça. Bruno Le Maire, que l'on soupçonne fort de vouloir devenir président à la place du président en 2027. On écoute Arthur Delaporte pour les socialistes.
Ma question s'adresse à Madame la Première Ministre. C'est l'histoire d'un projet de décret sur l'assurance chômage transmis aux partenaires sociaux le 23 décembre.
Ah.
C'est tout simplement l'histoire banale de votre mépris du dialogue social. Mais c'est aussi l'histoire secrète de votre secret espoir qu'un plus grand durcissement de votre réforme passe inaperçu. Vous vouliez en catimini réduire quasiment de moitié l'indemnisation avec un taux de chômage à moins de 6%. dans le contexte économique et social que nous connaissons. Alors même que l'assurance chômage affichera un excédent de 3 milliards d'euros en 2023, vous étiez donc prête à sacrifier un nombre croissant, plus important de nos concitoyens. Joli cadeau de Noël. Mais ce secret espoir a été déçu et vous avez donc fait semblant de reculer pour mieux conserver votre terrible réforme. Car votre réforme antisociale, toujours aussi dure et violente, doit entrer en œuvre dans 3 petites semaines. Une baisse seulement de 25% des droits. 6 mois de moins pour les travailleurs de moins de 55 ans, 8 mois de moins pour les plus de 55 ans. Votre baisse brutale va donc s'appliquer de manière encore plus violente pour les seniors, ces travailleurs en fin de carrière. Avec votre réforme des retraites annoncée ce soir, c'est la double peine. Moins d'indemnités, plus de précarité dès demain. Mais avec le recul de l'âge de départ que vous promettez, c'est aussi plus de seniors sans allocation au chômage, ni retraite, alors qu'environ, on l'a dit tout à l'heure, près d'une personne sur deux de plus de 55 ans est sans emploi. Ce régime ignoble, il faudra donc le subir 2 ans de plus pour toucher une retraite réduite à portion congrue, car, faut-il le rappeler, le chômeur cotise pour sa retraite, celui qui n'a pas d'allocation ne cotise pas.
Arthur Delaporte, il a 31 ans, il est professeur d'histoire à l'université, député du Calvados, du côté de Caen.
58 000 personnes ont été rasées.
Il est à la commission des affaires sociales, évidemment, c'est pour ça qu'il pose une question sur le sujet de la réforme de l'assurance chômage avec le décret qui est passé juste avant Noël.
Et gardez votre projet de retraite au placard.
Merci beaucoup. La parole est à
Arthur Delaporte, le député socialiste.
Ministre de l'Emploi.
Et sa réponse va être répondue par Olivier Dussopt, ancien député socialiste.
Monsieur Delaporte, il nous semble parfois que vous trouvez satisfaisante une situation dans laquelle, effectivement, un Français de plus de 50 ans sur deux serait sur le marché du travail. Une situation dans laquelle l'emploi des seniors serait finalement laissé de côté. Nous menons une politique d'emploi, et le ministre de l'Économie vient de l'évoquer. Une politique de l'emploi qui porte ses fruits. Au troisième trimestre de l'année 2022, ce sont 119 000 emplois qui ont été créés. 119 000 emplois nets. Et plusieurs dizaines de milliers d'emplois sont encore créés au quatrième trimestre. Entre le mois d'octobre 2021 et le mois d'octobre 2022, pour prendre une seule année, le plan de réduction des tensions, la formation des demandeurs d'emploi que nous avons mis en œuvre par Pôle emploi a permis de raccompagner vers l'emploi 380 000 demandeurs d'emploi de longue durée, dont presque 200 000 étaient des demandeurs d'emploi de très longue durée. C'est une bonne nouvelle pour eux, c'est une bonne nouvelle pour les entreprises. Nous avons un taux de chômage qui est historiquement bas et nous avons effectivement porté une réforme de l'assurance chômage et du marché du travail qui permet d'intégrer la conjoncture économique dans la définition des règles d'indemnisation avec la volonté d'avoir des règles plus incitatives quand il y a des tensions de recrutement et des créations d'emplois comme aujourd'hui et des règles plus protectrices comme nous l'avons montré pendant la période de Covid lorsque nous avons prolongé les droits de ceux qui arrivent en fin de droit en période de confinement ou encore mis en place une année blanche pour les intermittents du spectacle. Nous avons un décret qui est en cours d'examen, qui sera effectivement en vigueur à partir du 1er février et qui pose la première brique pour l'année 2023 de cette politique de contracyclicité. Nous avons dit aux partenaires sociaux notre volonté que ce mouvement de contracyclicité puisse aller plus loin et parce que cela a été dit peut-être trop tardivement, nous avons fait le choix de ne pas le laisser, de ne pas l'intégrer au décret tel qu'il est présenté au Conseil d'État. Nous avons maintenant 2 chantiers devant nous. Premier chantier, c'est la gouvernance de l'assurance chômage. Dans quelques semaines, j'adresserai aux partenaires sociaux le document d'orientation leur permettant de travailler sur la place de l'État et donc du Parlement, sur le rôle du paritarisme pour la gouvernance de l'assurance chômage. Et une fois cet accord, j'espère, trouvé, nous aurons à nouveau à saisir les partenaires sociaux pour travailler sur la question des modalités d'indemnisation à partir de 2024. Merci. Bien évidemment, dans ce cadre-là, la contracyclicité sera un angle.
Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à monsieur.
La contracyclicité, excusez-moi, je ne vous l'ai pas expliqué, vous avez compris, c'est le principe que l'on augmente les montants des prestations chômage quand il y a un faible taux d'emploi et qu'on les baisse quand il y en a un fort pour inciter les gens à prendre les emplois disponibles. Philippe Lothiot, député du Rassemblement national.
Chantier aux multiples facettes, mais dont l'urgence et la nécessité ne sont plus à démontrer.
C'est qui celui-là ?
Nous constatons tous les jours sur le terrain. Et dans la difficulté, les hospitaliers sont aux premières loges et je veux leur dire, depuis ces bancs, toute ma solidarité et mon plein soutien. Après un effort inédit sur les rémunérations avec les accords de Ségur et la relance de l'investissement hospitalier, il s'agit maintenant de refonder totalement un système de santé en crise profonde. Parmi les principaux objectifs figure la difficile question de la remise à plat de son financement, à la fois pour sortir de la tarification...
Ah non, je m'ai trompé, excusez-moi.
...aussi pour valoriser la pertinence des soins.
C'est Frédéric Valletoux, évidemment, vous l'avez reconnu.
Le président de la République avait lui-même rappelé, en lançant la réforme Ma Santé 2022, que 30% des dépenses de santé étaient dépenses inutiles, indues ou non pertinentes et qu'une régulation plus ferme était nécessaire.
Frédéric Valtoux, 56 ans, journaliste, député de Seine-et-Marne, du côté de Fontainebleau.
L'activité comme l'alpha et l'oméga du financement à la fois du système hospitalier et des soins de ville a abouti à des excès. Ouais. Et ce, autant à l'hôpital où la tarification à l'activité représente la moitié des financements que dans le secteur privé où sa part est beaucoup plus élevée. La France consacre, rappelons-le, 270 milliards d'euros à ses dépenses de santé. Si l'on considère 30% de dépenses non pertinentes sur cet ensemble, il y a largement de quoi mieux financer et la consultation à 25 euros du généraliste et les rémunérations des hospitaliers comme celles de l'ensemble de nos...
Pourquoi est-ce qu'on considérait 30% des dépenses de santé comme étant non nécessaires ? D'où il sort ça ? C'est quoi ce chiffre ?
Hospitaliers pendant cette période, cette réforme du financement n'a pas été faite, mais elle arrive enfin, et tant mieux. Aussi, monsieur le ministre, j'ai deux questions. En remplacement de la tarification à l'activité, quel modèle de financement envisagez-vous pour la pérennité de nos établissements de santé ? Par ailleurs, comment allez-vous concrétiser cette nécessité, voire cette urgence de mieux réguler par la pertinence ce que la France consacre à son système de santé ?
Frédéric Valtoux, il est membre de la commission des affaires sociales. Il pose une question, vous l'aurez compris, sur le modèle de financement de notre système de santé et notamment sur la situation à l'hôpital suite au Ségur. Où est-ce qu'on en est ? Frédéric Valtoux qui est au groupe Horizon. Il fait partie de ces responsables politiques de droite qui ont rejoint Édouard Philippe. On écoute le ministre de la Santé.
...de méthode et même d'analyse par rapport aux problèmes de notre système de santé. Vous le savez, notre système de santé a été construit sur l'offre de soins, qui est par définition concurrentielle et qui s'appuie sur un financement effectivement à l'acte. Le changement de cap, c'est retravailler notre système de santé sur la base de la réponse aux besoins de santé de la population. Alors, trois mots d'ordre, simplifier, décloisonner, valoriser, mais valoriser
la prévention,
la réalisation des missions de santé publique de chaque partenaire. Au niveau de l'hôpital, quelques éléments clés. Revenir à l'échelle du service, en tout cas pour les services qui le souhaitent, sortir de cette logique de pôle et de mégapôle, mais revenir à une taille humaine. Le partage de la pénibilité de la nuit doit être réalisé entre tous les partenaires. Il n'est pas normal que l'un des partenaires supporte seul toute la pénibilité des gardes et des astreintes. De la même façon, nous allons mettre en place un suivi de la carrière de l'ensemble des soignants, suivi de la carrière pour que, quand on entre comme infirmière dans un hôpital, on ait des perspectives d'avenir, aller éventuellement vers des responsabilités, reconnaître ses compétences, créer ses nouveaux...
Ça, c'est la suite du Ségur de la Santé, c'est de reprendre en charge l'ensemble de la carrière.
Pour les praticiens...
François Braun qui en tout cas dit qu'il y a une vraie volonté de décentraliser l'offre de soins dans les territoires. Il ne faut pas que tout le monde se dirige vers le CHU.
Partage de compétences.
Il faut mieux organiser le partage, notamment avec les maisons de santé, en fait.
En fait... C'est valable également pour le financement, puisque nous passons donc de cette logique de financement de l'offre, la T2A, à un financement de réponse aux besoins qui sera populationnel pour répondre aux besoins de chaque territoire, qui sera sur la pertinence des soins, qui sera sur la qualité des soins et bien sûr quelques éléments encore sur la qualité.
Ouais, donc c'est une évolution du mode de rémunération et du mode surtout de calcul de l'économie des hôpitaux autour de la tarification à l'acte qui va évoluer vers une réponse à l'offre, enfin aux besoins de soins.
PLFSS okay. L'année prochaine.
Il n'a pas parlé de prévention par contre.
La parole est à monsieur Philippe Lothiot.
Alors que je crois que ça fait partie quand même de ses priorités de mémoire.
Madame la Présidente.
Voilà, Philippe Lothiot du Rassemblement National.
De l'éducation nationale et de la jeunesse. Depuis que nos performances scolaires diminuent, notre pays éprouve des difficultés. Tel était le constat du candidat Emmanuel Macron dans son programme de 2017. Or, les résultats de l'évaluation récente des élèves rentrant en 6e en septembre 2022 vous ont amené à reconnaître dans une tribune que, je cite, « les comparaisons internationales révèlent des lacunes préoccupantes ». Et pour cause, cette évaluation illustre que plus du quart des élèves maîtrisent mal, voire très mal, le français et plus du tiers les mathématiques. Ceci dans la droite ligne de toutes les études internationales, le niveau constaté en France ne fait que baisser et se situe sensiblement en deçà de la moyenne européenne et de celle de l'OCDE. Or, les élèves rentrés en 6e à la rentrée de septembre sont ceux qui rentraient en cours préparatoire en septembre 2017. Le constat s'impose de lui-même, la présidence d'Emmanuel Macron est bien celle de la poursuite de l'affaissement de l'école républicaine. Une école où l'autorité des maîtres a disparu. Une école gangrenée par le wokisme, les expérimentations pédagogiques hasardeuses, le communautarisme, la repentance érigée en principe d'éducation. Tout ceci rend impossible la transmission d'une histoire, d'un savoir, des principes fondamentaux qui assurent à la fois l'instruction et l'assimilation de tous nos enfants. La preuve en est le creusement des inégalités sociales. Peut-être est-ce pour cause de sobriété énergétique, mais l'esprit des Lumières ne brille plus guère dans notre enseignement primaire.
Un gouvernement trop à gauche pour Philippe Lothiot, député du Var, du côté de Sainte-Maxime. Il a 56 ans, Philippe Lothiot. C'est l'ancien directeur général des services de la ville, de la mairie de Levallois-Perret.
Entre le CP et le CE.
Sous Balkany, donc.
Là que les élèves acquièrent ou pas.
Philippe Lothiot, qui pose une question sur la performance scolaire des élèves de 6e. Et il accuse le gouvernement d'être responsable de l'effondrement du niveau des élèves depuis 2017.
Les enseignants dévoués l'attendent. Il faut juste une volonté au-delà des discours. Aussi, pour éviter que la dégradation du niveau se poursuive, allez-vous enfin agir pour l'enseignement primaire et comment ? Je vous remercie.
Merci beaucoup. La parole...
Philippe Lothiot, c'est lui qui a battu Éric Zemmour
ministre de l'éducation
à l'élection législative. Dans le Var.
Madame la Présidente.
Alors on écoute Pape Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale.
En effet,
bête noire de l'extrême droite.
Comme elles le sont.
Pardon pour le jeu de mots, c'était pas voulu.
Les résultats de nos élèves en ce qui concerne les savoirs fondamentaux ne sont pas à la hauteur. Cela comprend également, et cela doit se lire en perspective des années précédentes, et notamment de la crise sanitaire qui a fortement impacté les résultats.
Non mais faites comme si vous n'avez pas entendu, s'il vous plaît, c'est un peu gênant.
Pour remédier à cette situation que nous reconnaissons, j'ai annoncé des mesures fortes à la hauteur de ces constats. Au primaire, des recommandations cette semaine vont être...
En vrai, je vais m'autobanne, je vais chercher un café. Je m'autobanne, je m'en veux.
...que soit instauré partout dans la foulée d'un rapport de l'inspection générale, la pratique régulière de la dictée, la pratique quotidienne de la rédaction, le temps hebdomadaire d'écriture est certainement insuffisant en cours moyen, et enfin, la régularité du calcul mental, une autre conclusion... de l'inspection générale. Au collège, nous agissons dès la rentrée prochaine sur la rentrée de 6e en facilitant la transition entre le primaire et le secondaire pour s'attaquer immédiatement aux difficultés des élèves afin que ces difficultés ne pèsent pas sur l'ensemble de la scolarité au collège. Pour cet effet, chaque élève bénéficiera d'une heure de soutien en français et en mathématiques assurée par des professeurs des écoles en 6e, de manière à remédier à ces difficultés. Par ailleurs, le dispositif « devoir fait » sera rendu obligatoire pour tous les élèves de 6e. Et je mentionne enfin la généralisation et l'obligation de l'heure et demie de mathématiques pour les élèves de première. Nous agissons donc pour les savoirs fondamentaux, de manière très concrète, afin d'améliorer les résultats de nos élèves pour leur vie scolaire et pour leurs résultats. Merci.
Merci beaucoup. La parole est à Madame Sophie Taillé-Polian pour le groupe écologiste.
Merci, Madame la Présidente. Dans son rapport en septembre dernier, le Conseil d'orientation des retraites écrit clairement qu'il n'y a pas d'urgence. Notre système de retraite, véritable joyau de notre protection sociale, n'est pas en danger. Essayez de convaincre les Français d'avaler votre recul des retraites au nom d'un soi-disant sauvetage du système, c'est leur mentir. Votre unique obsession est de trouver qui va payer le quoi qu'il en coûte, ainsi que votre politique fiscale faite pour les plus riches. Et avec vous, c'est toujours pareil, le peuple doit payer. Car le recul de l'âge de départ est une mesure qui va de fait fragiliser le plus grand nombre. Les Français le savent bien, qui sont opposés à cette réforme à 85%. Ils savent bien que les propositions que vous allez formuler vont fragiliser les femmes, les personnes aux carrières fragmentées et vont faire perdre à toutes et tous 2 ou 3 belles années de retraite qui, pour tant de Françaises et de Français, sont les seules qu'ils vivront en bonne santé. Il n'y a aucune urgence à réformer notre système de retraite, si ce n'est pour l'améliorer. Et de multiples pistes sont sur la table pour financer cela. Aussi, le choix qui s'annonce de faire passer cette régression via un PLFSSR est un nouveau palier que vous vous apprêtez à franchir dans le mépris du Parlement et de la démocratie. Car qu'est-ce qu'un PLFSSR ? Eh bien, comme son nom l'indique, c'est un texte pour rectifier des propositions budgétaires qui s'avèrent inexactes. Et ce n'est pas le cas ici. Vous choisissez cette option uniquement pour limiter le débat parlementaire. Cette procédure ouvre même la possibilité de passer par ordonnance en cas d'enlisement. Alors on pensait qu'après 10-49-3, on avait tout vu. Bien non, l'innovation au pouvoir avec vous, décidément, vous êtes très fort. C'est un véritable détournement de l'esprit de la Constitution. Renoncez à cette méthode, renoncez à cette réforme.
Je vous remercie. La parole est à monsieur Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion.
Merci madame la présidente, madame la députée Sophie Taillé-Polian. Vous nous demandez, madame la députée, s'il y a urgence. Je l'ai dit, il y a urgence. Et le rapport du Conseil d'orientation des retraites, composé des partenaires sociaux, pose trois constats que je partage à nouveau avec vous, ne désespérant pas, finalement, d'emporter votre adhésion. Premier constat, c'est qu'à la fin des années 70, nous avions trois cotisants pour un retraité. Au début des années 2000, nous avons deux cotisants pour un retraité. Aujourd'hui, nous sommes à 1,7 cotisant pour un retraité. Et en 2040, nous aurons 1,4 cotisant pour un retraité. C'est ça, madame la députée, le problème démographique. C'est ça qui explique que nous devons travailler un peu plus. C'est ça qui explique l'essentiel du déficit qui est constaté. Deuxième constat que je partage avec vous. Vous l'avez vous-même cité. Que dit le rapport du COR ? Il dit que le système est très légèrement excédentaire cette année et l'année dernière. Il dit que dès 2023... ce système sera déficitaire et qu'en 2027, c'est 12,5 milliards de déficit par an qui sont déficitaires. C'est 15 milliards d'euros en 2030, c'est 25 milliards d'euros en 2040. Si vous considérez que 25 milliards, c'est rien, nous n'avons pas la même conviction, la même conception de l'ordre des grandeurs. Et puis enfin, le rapport du COR, il dit...
Ah, il répond à Sophie Taillé-Polian, j'ai pas entendu sa question. Sophie Taillé-Polian, c'est une députée écolo, elle était sénatrice avant, je l'ai interviewée, Sophie Taillé-Polian, elle est devenue députée.
70, quand les retraités étaient pauvres de ce pays, alors même que le système par répartition a permis de redresser et de consolider leur pouvoir d'achat. Nous allons mener cette réforme pour éviter ces trois écueils. Nous allons mener cette réforme pour faire en sorte que, justement, les carrières hachées, les plus fragiles, les femmes, puissent avoir des mesures qui les protègent mieux qu'aujourd'hui. C'est ça que nous faisons, je l'ai dit tout à l'heure. Nous améliorons, parce que c'est important d'améliorer. Nous équilibrons, parce que c'est raisonnable. Équilibrer sans améliorer, c'est injuste. Améliorer sans équilibrer, c'est irresponsable. Nous allons faire les deux.
Je vous remercie, monsieur le ministre. La parole est à madame Charlotte Parmentier-Lecoq pour le groupe Renaissance.
Charlotte Parmentier-Lecoq pour le groupe de la majorité présidentielle.
La question s'adresse à monsieur le ministre de la Santé et de la Prévention. Monsieur le ministre, lors de ses vœux aux acteurs de la santé... le président de la République a annoncé la fin tant espérée de la tarification à l'acte, la même qui a provoqué une désorganisation majeure de nos hôpitaux en faisant primer la rentabilité sur l'intérêt des patients. Je salue cette initiative qui s'inscrit dans l'action de notre majorité et s'ajoutera à la suppression du numerus clausus, bien sûr, mais également à la revalorisation de la rémunération et à l'augmentation du nombre de soignants. Nous devons poursuivre sur cette voie et je salue la proposition de loi de notre collègue Stéphanie Rist qui apporte une avancée supplémentaire en permettant l'accès direct aux infirmiers en pratique avancée, aux masseurs-kinésithérapeutes et aux orthophonistes dans le cadre d'un exercice coordonné avec les médecins généralistes. Dégager du temps médical est indispensable, monsieur le ministre. Tous les professionnels de santé sont unanimes. Il faut tailler à la hache dans les lourdeurs administratives, alourdissant inutilement leur travail. Monsieur le ministre, les soignants, mais aussi les patients, comptent sur nous. Aussi, quelles sont vos échéances dans la concrétisation de la feuille de route tracée par le président de la République ?
Charlotte Parmentier-Lecoq qui pose une question sous forme de droit de suite aux annonces de décembre du président de la République sur l'hôpital. Elle est députée du Nord, elle a 45 ans, elle fait du conseil aux entreprises de l'économie sociale et solidaire. Elle travaille sur les sujets de santé. Charlotte Parmentier-Lecoq, elle a pondu un rapport sur la santé au travail et elle a fait une proposition de loi sur la prévention en santé au travail.
Système de santé.
On écoute François Braun qui va continuer à expliquer ce que va faire le ministre de la Santé pour mettre en œuvre les engagements d'Emmanuel Macron.
Des axes forts, régler les problèmes à l'échelle de chaque...
Non, c'était pas en décembre les annonces de Macron, pardon, c'était il y a deux semaines.
Concurrentiel, travailler en coopération, retrouver des collectifs à échelle humaine. Redonner du temps médical, plus largement du temps de soins, est un enjeu majeur. Comme l'a précisé le président de la République, la disparition trop tardive du numerus clausus n'aura d'effet que dans 5 à 10 ans. Alors, comment faire ? En laissant les soignants faire ce pour quoi ils sont formés, le soin. En ville, en continuant à développer les assistants médicaux créés lors du précédent quinquennat et à l'hôpital, en intégrant des administratifs, des logisticiens au plus près des soignants dans les services. En utilisant mieux les compétences de chacun, la plus-value de chaque professionnel, notamment au sein d'une équipe traitante autour du médecin traitant. Nous avons et nous allons continuer à travailler dans cet axe avec le projet de loi de la rapporteure Stéphanie Rist. Ce sont in fine des Des engagements clairs pour les Français. Un médecin traitant pour tous ceux qui en ont le plus besoin, les gens en affection de longue durée avant la fin de l'année. Une continuité, une universalité des soins sur tous les territoires. Ce sont aussi des engagements clairs pour les professionnels de santé. Poursuivre la meilleure prise en compte de la pénibilité du travail de nuit, des objectifs au niveau des organisations de qualité de vie au travail. Et enfin, construire des pactes avec les élus pour l'attractivité des territoires sur les logements, les crèches et les transports. Les échéances sont courtes car l'enjeu est majeur. Mars 2023 pour la fin des négociations avec les médecins libéraux, juin 2023 pour l'hôpital. Ce qui sera important pour moi, c'est des résultats objectifs, réels, auprès des Français, auprès des soignants. Soyez assurés que je suis totalement déterminé, ainsi que mon ministère, pour avancer en ce sens.
Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Madame Parmentier-Lecocq.
Oui, merci, Madame la Présidente. Comme il me reste un petit peu de temps, permettez-moi également, Monsieur le Ministre, de vous convier à la maison de santé de Templeuve en Pével, où grâce à l'engagement des soignants, des acteurs économiques, du maire de la commune et à la confiance accordée par l'ARS.
Ah bah on y va, ouais.
Nous inaugurerons prochainement l'implantation du premier scanner en France au sein d'une maison de santé.
Oh, il y a un scanner dans une maison de santé ?
Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Nicolas Dupont-Aignan.
Nicolas Dupont-Aignan.
Ma question s'adresse à Madame la Première ministre. Trois crises angoissent en cette rentrée nos concitoyens. Sur chacune d'entre elles, la santé, le prix de l'électricité, les retraites, vous soufflez sur les braises et vous refusez de prendre les décisions qui allégeraient la souffrance des Français. Sur la santé, vous annoncez 6 000 assistants médicaux fantômes, mais vous refusez de réintégrer 15 000 soignants scandaleusement exclus qui pourraient être au chevet des malades, comme dans tous les pays du monde. Sur le prix de l'électricité... Sur le prix de l'électricité, vous multipliez les dispositifs complexes, bureaucratiques, insuffisants. Alors qu'il faudrait simplement, comme l'ont fait l'Espagne et le Portugal, revenir à un prix national aligné sur les coûts de production qui permettrait de sauver nos PME, nos boulangers, nos artisans. Mais vous le refusez. Enfin, sur les retraites, vous allez plonger dans la misère bon nombre de seniors qui n'auront pas d'emploi entre 62 et 64 ans, qui seront aux minima sociaux. Alors, tout ça pour quelques milliards en 2030, alors qu'en revanche, vous refusez de vous attaquer aux dizaines de milliards de fraudes sociales, de fraudes fiscales, aux versements de l'Union européenne, aux coûts de l'immigration clandestine.
Nicolas Dupont-Aignan, le célèbre député souverainiste qui a été plusieurs fois candidat à l'élection présidentielle. Il est député de l'Essonne, il a 61 ans. Il avait rejoint Marine Le Pen entre les deux tours de l'élection présidentielle en 2017. Aujourd'hui, il est député non inscrit. Il est autonome indépendant. Il ne siège pas au sein du groupe du Rassemblement national.
Et porte-parole du gouvernement.
Et il a posé une question très globale sur plein de sujets différents sur les trois crises de la rentrée.
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés.
On écoute Olivier Véran.
Avez-vous dit, Monsieur Dupont-Aignan, en ce début d'année, certains parmi nous ont fait, comme le veut la tradition, des vœux. D'autres ont pris des bonnes résolutions. Manifestement, 2023 ne sera pas l'année au cours de laquelle vous prendrez la bonne résolution d'arrêter pour de bon la démagogie. Vous savez que j'aime bien répondre sur le fond...
Non, parce que sur la forme, c'est déjà pas mal, mais sur le fond, ça donne quoi ?
Un goubi-boulga ou un fond de cuve de ce qui anime les réseaux complotistes que peut compter notre pays. Au cas où, il sera difficile de vous répondre sur la totalité des aspects que vous avez soulevés, qui va de la réintégration des soignants non vaccinés à la retraite des indépendants, en passant par je ne sais quoi. Ce qui est sûr, monsieur le député, pour reprendre vos propres propos, les crises angoissent les Français, presque tous les Français, pas vous, vous vous en repaissez.
Je vous remercie.
Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, il tape fort. Dupont-Aignan, qu'est-ce qu'il en pense de la réponse ?
Le ministre n'est pas choqué qu'un boulanger ait un contrat à 50 euros ou 100 euros et que cela passe à 280 euros. Vous prétendez aider les Français, mais vous leur mettez la tête sous l'eau. Ensuite, vous les repêchez à moitié et vous vous attendez des merci. Les Français sont en colère parce que votre politique est un tas d'hypocrisie, de mépris et va aboutir à un désastre social.
Merci beaucoup,
voilà ce que vous semez aujourd'hui.
Merci beaucoup, monsieur le député.
Un échange tendu avec Nicolas Dupont-Aignan.
La parole est à madame Bénédicte Taurine.
Bénédicte Taurine pour les Insoumis.
Je vous remercie. Madame la Présidente, ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'Économie. Depuis plusieurs mois, nous sommes toutes et tous
alerté sur les problématiques de l'augmentation des prix de l'énergie. Dans des secteurs aussi diversifiés que celui de l'artisanat, avec notamment une mobilisation inédite des boulangers ou des bouchers, celui de l'entreprise ou des collectivités territoriales. Votre gouvernement a mis en œuvre diverses mesures. Je pense par exemple au chèque énergie ou au bouclier tarifaire. Et vous les avez déjà évoqués au cours de cette séance. Mais malheureusement, ce que l'on peut constater, c'est qu'elle laisse un nombre très important de personnes ou d'entreprises sur le bord du chemin. Un simple exemple, 80% des boulangers, selon leur confédération, ne seraient pas éligibles au bouclier tarifaire.
Ah bon ?
Concernant les entreprises, BPI France précise que pour 65 000 d'entre elles, l'impact de la hausse des coûts va faire basculer leurs résultats en négatif. Quant à la majorité des copropriétés ou des 600 000 logements sociaux qui sont chauffés par un système collectif alimenté par du gaz ou de l'électricité, depuis la libéralisation des marchés de l'énergie, ces chauffages collectifs ne peuvent plus bénéficier des tarifs réglementés. Le mécanisme de compensation qui a été mis en place est défaillant et n'empêche pas les hausses de charges spectaculaires que nous pouvons tous constater sur nos circonscriptions.
Bénédicte Aurine, elle est députée de l'Ariège, du côté de la jolie ville de Foix. Elle a 46 ans, elle est ancienne prof d'SVT. Elle avait commencé au Parti communiste avant de rejoindre la France insoumise. C'est son deuxième mandat de députée.
Et divise les Français. Pouvez-vous nous expliquer pour quelles raisons vous ne prenez pas une mesure unique, simple et juste à la fois pour les ménages, les entreprises et les collectivités qui seraient de remettre en place simplement le tarif réglementé. Je vous remercie.
Elle demande le retour du tarif réglementé de l'électricité plutôt que les différentes aides auxquelles malheureusement, d'après ce qu'elle dénonce, il n'y a pas suffisamment d'entreprises qui peuvent y recourir.
Madame la députée Dorine, merci de votre question. Vous le savez, je pense que tout le monde le sait, la France et l'Europe font face à un choc énergétique exceptionnel. Et ce que vous proposez d'instaurer, je pense, si j'ai bien compris, un bouclier énergétique pour l'ensemble des acteurs économiques, c'est tout simplement un coût exorbitant, de l'agent magique, le retour au quoi qu'il en coûte dans des situations où elle ne serait clairement pas justifiée. Vous avez parlé de 80 000 boulangers au bord de la faillite. Vous le savez, nous avons annoncé un certain nombre de mesures, dont jusqu'à vendredi, en accord avec les distributeurs d'énergie, un plafonnement du tarif, non seulement pour les boulangers, mais pour l'ensemble des TPE. Les deux tiers d'entre elles sont éligibles au TRV, que vous appelez de vos voeux. Le tiers qui reste verra sa facture plafonnée à 280 euros le mégawatt.
D'accord.
Nous avons aussi adopté un certain nombre de mesures pour les PME, pour les grands groupes industriels qui consomment beaucoup d'énergie. Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances, a eu l'occasion de le rappeler tout à l'heure. La France, aujourd'hui, est le pays qui s'en sort le mieux en Europe face à ce choc.
Roland Lescure, donc, qui détaille les différentes aides qui ont été mises en place par le gouvernement pour plafonner les prix de l'électricité pour les boulangers.
Le chômage est en baisse. Les prévisions de croissance plaident encore pour une croissance positive en 2022, alors qu'elle sera négative à peu près partout en Europe. Soyons-en fiers, mesdames et messieurs les députés. Tout ceci est en grande partie le reflet de mesures que vous avez votées, peut-être pas tout le monde. Nous allons continuer à protéger l'économie française, mais de grâce, projetons-nous vers l'avant, soyons optimistes, soyons volontaristes, arrêtons le défaitisme généralisé. La France s'en sort mieux que tout le monde. Continuons. Merci.
Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à madame Josiane Corneloup pour
Merci,
le groupe
madame
Les Républicains.
Présidente.
Josiane Corneloup.
À monsieur le ministre de la Santé et de la Prévention. Monsieur le ministre, la situation financière des hôpitaux est particulièrement inquiétante. C'est le cas de mon hôpital local, à Paray-le-Monial, mais plus généralement de tous les hôpitaux publics. L'ensemble des hôpitaux, quelle que soit leur taille, doit faire face à des charges qui augmentent plus vite que leurs recettes. Le retour de l'inflation entraîne, par exemple, un surcoût de 750 millions d'euros annuels. Un ONDAM fixé pour 2023 à 4% ne permet même pas de faire face aux surcoûts générés par l'inflation des charges générales.
L'ONDAM, c'est l'objectif national de dépenses de l'assurance maladie. Donc c'est la prévision d'augmentation du pognon qu'on va mettre dans notre assurance maladie.
En permanent, le recours à des praticiens intérimaires, ce qui représente là aussi un surcoût élevé. Quant à la hausse légitime du point d'indice de 3,5% des personnels, elle représente une dépense supplémentaire annuelle de 2 milliards d'euros qui n'a pas été compensée par l'État. Avec un encours national de la dette de 30 milliards d'euros,
trois fois plus qu'en 2002, un nombre croissant d'établissements est dans l'obligation d'emprunter. Beaucoup d'hôpitaux sont également à ce jour amenés à suspendre le règlement des taxes sur salaire pour pouvoir payer leurs fournisseurs. Si je salue la reprise de la dette hospitalière par l'État pour 13 milliards et l'affectation de 6 milliards consacrés...
Oui, il y a eu une reprise de la dette hospitalière.
L'investissement, la situation des hôpitaux, malgré une activité inégalée, est à ce point dégradée que cette enveloppe globale est totalement insuffisante pour permettre aux hôpitaux d'assurer une prise en charge satisfaisante des patients. Quant au personnel, il continue de faire preuve du même et remarquable dévouement observé lors de la crise sanitaire. Mais travaillant dans des conditions très difficiles, ils sont épuisés et au bord de la rupture.
Josiane Corneloup, elle est députée de Saône-et-Loire, elle a 63 ans, elle est ancienne pharmacienne d'officine. Elle était pharmacienne, Josiane Corneloup, elle est députée Les Républicains. Elle est vice-présidente de la commission des affaires sociales, elle travaille beaucoup sur les sujets de santé, sur les sujets de handicap et sur les sujets d'autonomie.
Le nombre de patients morts aux urgences sur des brancards sur le seul mois de décembre 2022. Monsieur le ministre, notre système...
Merci beaucoup. La parole est à Monsieur François Braun, ministre de la Santé et de la Prévention.
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Corneloup, je vous rejoins lorsque vous saluez l'engagement des soignants qui tiennent encore quotidiennement nos différents services, qui soignent, qui sauvent tous les jours, mais qui effectivement ne se retrouvent plus dans notre système de santé. Ils travaillent dans des conditions difficiles, trop difficiles, et il y a besoin aussi de leur redonner du sens. Alors cette crise de l'hôpital que vous signalez, ce n'est pas qu'une crise de l'hôpital, c'est une crise de l'ensemble de notre système de santé, aussi bien en ville qu'à l'hôpital, mais c'est une crise qui dépasse aussi malheureusement le cadre de la France et qui touche tous les pays industrialisés aujourd'hui. Les solutions, elles sont dans la simplification, dans le retour à l'humain, dans le bon sens, je l'ai dit, dans les organisations comme dans les financements de notre système de santé. Et le député Valtoux le disait tout à l'heure, 30% du financement dans le cadre de la T2A serait indu et devrait être redéployé différemment. Je ne reviendrai pas sur ce principe construit sur l'offre de soins, particulièrement délétère, pour revenir sur la réponse aux besoins qui, eux, donneront du sens. Alors, à l'hôpital comme en ville, il faut plus de soignants auprès des malades, gagner du temps de soins, reconquérir nos territoires en redonnant du temps médecin.
Vous avez compris, il va y avoir un changement de philosophie dans la méthode de financement des hôpitaux. On quitte la tarification à l'acte pour se diriger vers une tarification. Alors, j'ai pas bien compris quelles sont ces méthodologies de calcul, mais tarification en fonction de la réponse aux besoins de soins.
Des hôpitaux de recours et des hôpitaux supplémentaires, également avec la ville, avoir une réponse non pas nationale mais adaptée à chaque territoire. Vous avez soulevé le problème de l'intérim, j'y reviens. La limitation de l'intérim a été votée par cette Assemblée l'année dernière. Je me suis engagé à prendre le décret qui limitera l'intérim médical. Il sera pris avant le printemps et nous aurons enfin un intérim qui répond aux besoins, non plus un intérim cannibale qui entraîne la déstructuration de notre offre de soins. Ouais. Donc vous le voyez, c'est une véritable volonté de construire des réponses à l'échelle des territoires, de restructurer le financement de nos établissements. C'est comme cela que nous arriverons à sortir de la crise actuelle.
Je vous remercie, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Nicolas Pacaud pour le groupe Renaissance.
Nicolas Pacaud.
Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Il fut un temps où c'était un geste du quotidien que de coller un timbre sur une enveloppe.
Ah.
Ce 1er janvier, les Français ont...
Quotidien, je ne suis pas sûr, mais...
qui rejoindra bientôt la disquette, le chéquier ou la cabine téléphonique au rang de ces objets qui ont été le symbole d'une époque. Désormais, en lieu et place de la lettre prioritaire...
Ça remonte à quand la dernière fois que vous avez collé un timbre sur une enveloppe ?
...chargé de l'imprimer avant de le distribuer. Ce système, certes rapide et efficace, est plus écologique à certains égards, ne manque pas de poser des questions. Monsieur le ministre, nous savons que les services publics de demain ne peuvent ressembler éternellement à ceux des années 60 et que pour s'adapter aux besoins actuels, la Poste doit se réinventer. J'ai pu lire ici et là que l'argent économisé par le remplacement du timbre rouge doit servir à développer d'autres services de proximité, à l'image des étapes numériques, lieux dédiés à la formation. J'ai d'ailleurs assisté le mois dernier à l'inauguration de la toute première étape numérique du Doubs au sein du bureau de poste de Saint-Hippolyte.
Oh.
Nous le voyons dans nos circonscriptions. Les citoyens qui ont le plus recours au service postal font partie de ces 23 millions de personnes encore en difficulté avec le numérique. Dès lors, Comment garantir à chaque citoyen un accès satisfaisant au service postal?
Nicolas Pacaud, il est député du Doubs, du côté de la jolie ville de Montbéliard. Il a 44 ans. Nicolas Pacaud, il est ingénieur dans l'industrie automobile. C'est lui qui a inventé le différentiel dont la chaîne Villebrequin vous parlera un jour. Nicolas Pacaud, qui pose une question sur les évolutions de la poste. Vous avez probablement entendu parler de la disparition du timbre rouge qui va être remplacé par un système sur Internet d'envoi de courrier.
Cette nouvelle organisation...
Non, c'est pas lui, c'est une blague. Hein. Le différentiel, c'est une blague. Calmez-vous.
Celle du recul des services publics. Aussi, Monsieur le Ministre, j'aimerais que vous puissiez nous rassurer sur le fait que le passage au tout numérique ne remettra pas en cause la mission principale du groupe La Poste, celle de garantir un service de proximité.
Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Jean-Noël Barrot, ministre de la Transition numérique et des Télécommunications.
Alors, le ministre du numérique qui va répondre sur La Poste. Comment qu'on fait pour aider les vieux à s'en sortir avec leur ordinateur?
Nicolas Pacaud. Vous interrogez le gouvernement sur les évolutions de la politique de courrier du groupe La Poste. Il n'a pas échappé au gouvernement que le passage du timbre rouge à la e-lettre rouge suscite chez nos concitoyens un certain nombre d'interrogations et d'inquiétudes légitimes. Permettez-moi tout d'abord de rappeler les deux constats sur lesquels s'appuie cette évolution de la politique de courrier du groupe La Poste. D'une part, les usages de nos concitoyens ont évolué. Là où en 2010, ils envoyaient 45 lettres prioritaires par an, ils n'en envoient plus que 5 par an.
Sérieux ?
En 2021. Deuxième constat, les évolutions prévues par le...
On est passé de 45 lettres par an à 5.
La Poste d'économiser 60 000 tonnes de CO2 par an, soit 25% des émissions de gaz à effet de serre du groupe, grâce notamment à l'arrêt du transport aérien et à un meilleur remplissage des camions. Ceci étant dit, permettez-moi de vous donner quelques éléments qui seront, je l'espère, de nature à vous rassurer et à rassurer l'ensemble de nos concitoyens. D'abord, les timbres rouges qui ont été achetés avant le 1er janvier de cette année continuent évidemment à être fonctionnels.
D'accord, on peut toujours les coller sur les enveloppes. Okay.
La présence du facteur est bien maintenue 6 jours sur 7 pour l'ensemble des activités du groupe La Poste sur l'ensemble du territoire. Troisièmement, les agents de La Poste pourront accompagner, vous l'avez évoqué, les concitoyens qui seraient empêchés ou dans l'impossibilité d'y parvenir à réaliser leur envoi de courrier prioritaire.
Mais la lettre prioritaire, c'est pas la lettre simple par défaut ?
Maintient évidemment.
Moi, j'ai l'impression que quand j'achète un timbre, c'est toujours lettre prioritaire.
D'envoi de courrier avec la lettre service plus qui arrive après 2 jours et la lettre verte qui arrive après 3 jours.
Vous le voyez, c'est la lettre verte. Ah oui, d'accord.
Pour la qualité.
D'accord.
Ministre, la parole est à Madame Martine Etienne pour le groupe La France Insoumise.
Martine Etienne pour La France Insoumise.
Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de la Santé. On est à bout, on n'en peut plus. Les gens meurent et on ne peut rien faire. C'est ce que les soignants répètent depuis des mois dans toute la France. Martigny, Périgueux, Lunel, Mayenne, Saint-Calais, et j'en passe. Alors que nous subissons une triple épidémie de bronchiolite, de Covid et de grippe, partout en France, des services d'urgence sont contraints de fermer, faute de personnel. Ceux qui restent ouverts sont submergés et n'ont toujours pas de moyens supplémentaires. Résultat, le syndicat SAMU Urgence de France fait état de 150 personnes qui ont trouvé la mort de manière inattendue parce qu'ils attendaient sans être soignés alors qu'ils étaient aux urgences. Cela fait des mois que les soignants vous alertent, qu'ils vous disent qu'ils sont au bord du craquage. Vous ne les écoutez pas. Trop peu nombreux, surmenés, ils font leur possible au détriment de leur propre santé. Mais sans financement, sans recrutement et sans moyens supplémentaires, ils ne s'en sortiront pas. Le 31 décembre dernier, lessivés et épuisés par des cadences intenables et des conditions de travail inhumaines, 55 des 59 infirmiers, infirmières, aides-soignantes et aides-soignants des urgences de Thionville ont été placés en arrêt maladie. Depuis hier, le mouvement a été suivi par les soignants des urgences de Pontoise, qui sont 90% à être en arrêt maladie. Cette situation est symptomatique du sous-financement délibéré de l'hôpital public et de la libéralisation du système de soins en France. Alors, Monsieur le Ministre, quand donc allez-vous écouter les soignants ? Quand donc allez-vous endiguer la casse de l'hôpital public en structurant un système de santé égalitaire et accessible à tous, en constituant un véritable service public de santé.
Martine Etienne, elle a 66 ans, elle est factrice.
Les salaires.
Elle est députée de Meurthe-et-Moselle.
Au travail de nos soignants.
Et elle pose une question sur l'hôpital public et les conditions de travail des soignants.
Encore avant que vous ne réagissiez.
Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur François Braun, ministre de la Santé.
On écoute à nouveau le ministre de la Santé. Aujourd'hui, les deux thèmes, c'était retraite et santé. Hein.
Madame la Présidente. Madame
le retour de Baxi, tout le monde s'en branle. Madame, ok, super.
La députée Martine Etienne, je ne répondrai pas à votre dernière remarque. Et vous le comprendrez, vu le métier que j'ai exercé pendant plus de 30 ans.
Il était directeur d'hôpital, François Braun.
La situation des services d'urgence, je la connais même bien, y compris, vous le savez parfaitement, la situation des urgences de Thionville. J'en profite d'ailleurs sur cette saturation de notre système, et vous parliez de la triple épidémie, pour rappeler ici, encore une fois, vous me direz, l'application des gestes barrières et l'intérêt de la vaccination, là aussi, pour lever la pression sur nos services d'urgence. Je ne doute pas que tous ici...
Ah, il bossait à l'hôpital de Thionville ?
Cette pression,
ah, je savais pas.
Ces consignes simples. Alors, mon premier mot sera bien sûr pour soutenir les gens qui travaillent dans ces services, mes anciens collègues, qui arrivent à tenir à bout de bras un système. Mais pour autant, la situation qui est décrite dans certains services est totalement inacceptable. Et je m'assure, soyez-en certaines, de la mobilisation des directions d'établissement.
Ah, il n'était pas directeur d'hôpital, il était médecin, directeur de service. Ah oui, d'accord, oui, c'est pas pareil. Oui, t'as raison.
Nous pouvons tolérer pour l'accès à la santé de nos concitoyens. Nos services d'urgence, et vous le savez aussi, sont le réceptacle de nombreux problèmes de notre système de santé, en amont avec la réponse aux soins non programmés et en aval avec le manque de disponibilité de lits pour hospitaliser des patients. Face à ces difficultés, vous le savez aussi, nous agissons par des réponses immédiates. Je ne vais pas revenir sur les mesures de l'été, dont un certain nombre sont prolongées, sur l'accentuation de la rémunération des heures de nuit, mais aussi par des mesures structurelles, et c'est ça qui nous attend demain. La libération massive du temps médical, je l'ai dit, former plus et mieux de soignants dans la ligne de la suppression du numerus clausus, mieux organiser l'hôpital en sortant de cette logique financière concurrentielle entre établissements, en travaillant à l'échelle des territoires dans un esprit de coopération. Mieux valoriser également la pénibilité du travail, en particulier la pénibilité du travail de lit. Les urgences sont la dernière ligne de défense de notre système de santé. C'est en agissant sur l'ensemble de ces leviers, en amont et en aval, que nous leur permettrons de gagner ce défi. Je vous remercie.
Je vous remercie, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Philippe Naillet pour le groupe socialiste.
Philippe Naillet, le socialiste. Hop.
Merci.
Député de la Réunion.
Madame la Présidente, ma question s'adresse à Monsieur le Ministre délégué chargé de l'Industrie. Monsieur le Ministre, vous le savez, l'article 73 de la loi Égalité réelle en Outre-mer, votée à l'unanimité en février 2017, a instauré l'expérimentation durant 5 ans de la stratégie du bon achat ultramarin.
Oui, on le savait.
Dans le cadre de la commande publique locale. L'objectif étant de favoriser par l'achat public l'émergence de nouveaux opérateurs locaux, le développement économique et donc la création d'emplois avec deux dispositions. La première qui a permis jusqu'en février dernier aux acheteurs publics de réserver jusqu'à un tiers de leur marché aux petites et aux moyennes entreprises locales. La seconde concernant les marchés supérieurs à 500 000 euros et l'obligation de présenter un plan de sous-traitance prévoyant le montant des modalités de participation des PME locales. Ce dispositif s'éteindra à la fin du mois de mars. Vous le savez également, dans nos territoires, la commande publique influe fortement sur l'activité économique. Ces dispositifs de différenciation sont des leviers primordiaux pour le développement de notre tissu économique, composé à 93% de très petites entreprises et dont les deux tiers n'ont pas de salariés et ne répondent pas d'elles-mêmes aux appels d'offres. Cette stratégie du bon achat est typiquement une des réponses adaptées aux problématiques économiques et sociales de
nos... Vous avez compris, hein, ce principe du bon d'achat, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de protectionnisme local dans les territoires d'outre-mer, les entreprises du territoire sont prioritaires pour répondre aux appels d'offres publics.
De nombreuses familles. Bref, l'obligation de sous-traitance des PME locales en ce qu'elle facilite leur accès et leur développement au sein de plus gros marchés. Dans une enquête publiée par le Haut Conseil de la commande publique de la Réunion, il est proposé de reconduire ces dispositions. Plusieurs recommandations ont été émises pour faire évoluer et rendre plus efficients ces dispositifs. Dans cette enquête, 78% des acheteurs interrogés demandent une reconduction améliorée des dispositifs. Vous l'avez compris, ma question est simple, Monsieur le Ministre. Comment comptez-vous
pérenniser ce système qui est important pour l'économie de l'île? Philippe Naillet, socialiste, député de La Réunion du côté de Saint-Denis, il a 62 ans, il est chef d'une entreprise dans le logement à La Réunion.
Merci, Madame la Présidente, Monsieur le député.
Alors, qu'est-ce qu'on fait?
Votre question. Vous avez raison, les marchés publics qui représentent environ pour l'ensemble du territoire national 120 milliards d'euros par an sont un puissant levier d'orientation de l'économie. Et sur ces 120 milliards, environ 58%, donc pas loin de 60%, étaient des PME, pour ce qui est des titulaires du marché public, représentant 30% du montant global de ces derniers. Et donc la question que vous posez et que vous avez posée, puisque je pense qu'à l'époque, vous étiez déjà député en février 2017, quand la loi à laquelle vous faites référence a été votée, est tout à fait pertinente, notamment dans les départements que vous représentez. Vous l'avez dit, le dispositif expérimental, qui s'atteindra dans quelques semaines, visait la possibilité pour les acheteurs de réserver un tiers de leur marché public aux PME locales, une obligation de présenter un plan de sous-traitance local pour les marchés supérieurs à 500 000 euros. Force est de constater, malheureusement, que ce dispositif a été loin d'avoir du succès, puisque seuls 4% des acheteurs seulement l'ont mis en œuvre. Ah. Notamment à cause d'un risque juridique lié à l'imprécision du texte voté à l'époque et un manque de clarification sur les secteurs économiques concernés. Nous ne voyons pas, donc, à ce stade, un intérêt réel à proroger ce dispositif en l'état dans les mêmes conditions au vu de sa faible mobilisation sur le terrain. Bruno Le Maire a eu l'occasion de l'évoquer récemment. Nous souhaitons porter en 2023 un projet de loi de réindustrialisation verte dans le cadre duquel la commande publique doit avoir toute sa part. Je vous engage donc à participer aux consultations qui auront lieu dans le cadre de la préparation de ce projet de loi. Ouais. Un certain nombre de parlementaires...
Parce que du coup, ce que dit Roland Lescure, c'est le dispositif, il avait de la gueule sur le papier, mais en réalité, dans les faits, il était très peu utilisé parce qu'il était mal branlé. Donc on n'a pas envie de le continuer en l'état parce qu'il ne marche pas, il ne sert à rien. Donc, mais on veut travailler un plan de réindustrialisation dans le cadre duquel il va falloir qu'on bosse ensemble. Mais est-ce qu'ils vont passer le truc à l'as à la fin? Je ne sais pas.
Des dispositions législatives, mais pour autant, en assurant l'égalité de tous et toutes devant les territoires et le respect, vous le savez, du droit européen. En attendant, vous le savez, dans le mandat précédent, nous avons voté des dispositions qui visent à intégrer davantage les enjeux environnementaux et sociétaux. Je vous engage à vous en saisir. Merci.
Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Jean-Marie Fiévet pour le groupe Renaissance.
Jean-Marie Fiévet.
Merci
pour la majorité.
Ma question s'adresse à Madame la Secrétaire d'État chargée des anciens combattants et de la mémoire. Ce mercredi 4 janvier, le film Tirailleurs, réalisé par Mathieu Vadepied.
Ah, Omar Sy.
Ce film qui se déroule en 1917 raconte l'histoire des jeunes Tiernos, joués par Alassane Diong, recrutés de force dans un village sénégalais par l'armée française et de son père Bakary, incarné par Omar Sy. La sortie du film relance l'intérêt, mais aussi certaines polémiques autour de la mémoire et de l'histoire de ces unités coloniales recrutées dans les différents territoires de l'Empire français. Ne les oublions pas, l'histoire des tirailleurs est souvent méconnue. Créé en 1857, le statut de tirailleur sénégalais est donné aux hommes recrutés dans toute l'Afrique subsaharienne, faisant partie du corps militaire des troupes coloniales. À la création du premier régiment, ils étaient environ 500. Lors de la Grande Guerre, c'est plus de 200 000 tirailleurs qui se sont battus sous le drapeau français. Les tirailleurs auront, jusqu'aux guerres de décolonisation et d'indépendance, servi les armées françaises. Ils étaient engagés dans les combats pendant la Deuxième Guerre mondiale, ou encore en Indochine, à Madagascar ou en Algérie, où ils intervenaient comme des forces de l'Empire français. Les régiments de tirailleurs seront définitivement dissous en 1962. En réponse à cet engagement, et malgré les polémiques pouvant ressurgir, l'État se doit d'apporter et apporte une reconnaissance...
Jean-Marie Fiévet, député des Deux-Sèvres, il a 58 ans, il est sapeur-pompier. Et à l'occasion de la sortie du film Tirailleurs, il pose une question sur ce que fait l'État pour soutenir les tirailleurs.
Durant les nombreuses décennies et au cours desquelles ils ont été employés. Combien sont-ils aujourd'hui et quelle est leur situation géographique et sociale? Et d'autre part, pouvez-vous nous préciser comment l'État et le gouvernement accompagnent ces anciens grands combattants et leur apportent ainsi la reconnaissance qui leur est due? Je vous remercie.
C'est pas mal ça, de se saisir de l'occasion de la sortie d'un film pour aborder un sujet dont on parle peu.
Des anciens combattants et de la mémoire.
On écoute la ministre des anciens combattants.
Monsieur le député Fiévet, les tirailleurs sénégalais sont des combattants issus des anciennes colonies d'Afrique subsaharienne qui se sont engagés au sein de l'armée française. Pendant la Première Guerre mondiale, près de 200 000 d'entre eux se sont engagés pour défendre notre drapeau. Leur contribution pendant la Seconde Guerre mondiale vaut à deux d'entre eux de reposer dans la crypte du Mont Valérien. Ils se sont battus vaillamment, avec honneur et fierté pour notre pays. Ils sont l'objet d'une attention constante de mon secrétariat d'État sous l'autorité de Sébastien Lecornu, ministre des Armées. Les marques de reconnaissance ne manquent pas, mais la reconnaissance est un travail continu. Depuis mon entrée au gouvernement, j'ai travaillé avec l'ONACVG pour pouvoir dénombrer précisément. Aujourd'hui, une trentaine de tirailleurs sénégalais, octogénaires et nonogénaires, vivent dans des foyers de travailleurs plutôt abondis, essentiellement abondis. Avec Jean-Christophe Combes, ministre des Solidarités, et Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture, nous avons levé, à titre exceptionnel, l'obligation de résider en France pour la perception du minimum vieillesse, afin qu'ils puissent finir leurs jours dans leur pays. C'était une question d'humanité. En décembre, après les avoir rencontrés à Bondy, ils m'ont accompagné pour le ravivage de la flamme sous l'Arc de Triomphe. C'était un grand moment. La vérité du film avec Omar Sy est de rappeler aux Français une page de notre histoire. Au sein de mon secrétariat d'État, qui est celui de la reconnaissance, de la réparation et de la mémoire, je m'assure que la nation considère ces grands anciens combattants avec respect et attention. Vous pouvez compter sur moi, monsieur le député Fievé, sur ma détermination pour continuer à accompagner ces grands tirailleurs sénégalais. Merci.
L'occasion donc de cet échange étant l'occasion pour la majorité de répondre indirectement aux polémiques un peu nazes qu'il y a eu.
Giovanni Williams pour le groupe GDR.
Bah alors ?
Merci mon cher collègue.
Attends, je te partage mes fiches.
Merci madame la présidente, madame la première ministre, mesdames, messieurs les ministres, chers collègues. Vous le savez, la justice a rendu une ordonnance de non-lieu dans l'affaire, ou plutôt du scandale de l'empoisonnement au chlordécone. Cette décision n'est évidemment pas comprise par la population qui a été empoisonnée à cause d'une décision gouvernementale autorisant la prorogation de l'utilisation de cette molécule de la mort.
Il est en colère, le député Giovanni William, vous député martiniquais.
Vous êtes le premier maillon dans cette chaîne de responsabilité. Cessez donc de nous dire que 92 millions sur 7 ans suffisent et suffiront à pallier vos responsabilités. Cessez donc de couvrir vos erreurs par des plans qui ne feront qu'attiser l'incompréhension du peuple en souffrance déjà. Il ne s'agit pas d'attendre une décision judiciaire, chers collègues, mesdames, messieurs. Il s'agit, pour vous, d'être au rendez-vous de l'histoire.
Le chlordécone, c'était un intrant qui était utilisé dans la culture de la banane aux Antilles, notamment à la Martinique.
Quand allez-vous
et qui était hautement cancérigène et qui a été maintenu en circulation malgré la connaissance de son caractère cancérigène.
Touché dans sa chair et dans son âme par cet empoisonnement, par cette non-reconnaissance qui nous tue aussi un peu plus chaque jour. Merci.
Giovanni William, donc, qui se fait le relais de la colère des habitants et des victimes du chlordécone en Martinique, qui ne comprennent pas que la justice ait rendu une décision de non-lieu dans ce dossier.
Madame la Présidente, Monsieur le député William, je constate, comme vous, la décision prise par les autorités judiciaires en toute indépendance. La pollution au chlordécone est un sujet très grave, qui suscite l'angoisse et parfois de la colère. Vous venez de le dire, je le sais, chez nos concitoyens antillais. En tant que ministre en charge de l'Outre-mer avec Gérald Darmanin et l'ensemble du gouvernement, notre priorité est de protéger leur santé, d'aider les secteurs économiques impactés et de renforcer les recherches pour améliorer l'ensemble des terrains. Nous devons continuer à avancer dans le chemin ouvert pour la première fois par le président de la République en 2018, qui est le premier à avoir reconnu la responsabilité de l'État. Sous son impulsion, des avancées fortes ont déjà été obtenues. Reconnaissance du cancer de la prostate comme maladie professionnelle ouvrant droit à indemnisation. Analyse gratuite de taux de chlordécone dans le sang pour toute la population, ainsi que des sols pour les agriculteurs et les particuliers. Grâce aux travaux de recherche, capacité de réduire par deux la teneur de chlordécone dans le sang en 6 mois en consommant des produits non contaminés. Accompagnement des agriculteurs et des particuliers pour cultiver des produits sains, y compris sur des terres contaminées. Par ailleurs, un effort national de la recherche est engagé avec 5 projets sur la dépollution des sols, 1 sur l'impact de la chlordécone sur la fertilité féminine. Ce sont ainsi 40 de laboratoires de recherche dans l'Hexagone et dans les Outre-mer qui sont mobilisés. Le colloque scientifique et les rencontres terrain du mois de décembre dernier ont été l'occasion de porter à connaissance les nombreuses avancées. Ils ont aussi montré qu'il restait beaucoup à faire et nous devons le faire. Je me rendrai en Martinique dans les jours qui viennent.
En fait, le chlordécone a été interdit, mais il a été interdit trop tard par rapport aux autres pays, y compris les deux Antilles, parce que tout le monde connaissait son caractère cancérigène. Donc le scandale, il est dans le fait que...
Il n'y a pas de paix sans justice. Il n'y a pas de paix sans responsabilité. Merci.
Le chlordécone a été maintenu en circulation, notamment à la demande des populations locales, parce que ça boostait quand même pas mal l'économie de la banane et ça créait des emplois, etc. Le problème, c'est que c'était cancérigène. Donc c'est un scandale. Philippe Ballard pour le Rassemblement National. Attends, c'est lui ?
De la transition
oui, c'est lui.
Énergétique. Parlons du marché régulé de l'énergie ou l'art de créer un problème là où il ne devrait pas y en avoir. Depuis 6 mois, le gouvernement raconte des fariboles et des carabistouilles aux Français. Vous affirmez que nous voulons sortir du marché européen de l'énergie. Mais qu'est-ce qu'on veut faire ? Couper les câbles, les interconnexions, les réseaux ? Non, nous avons toujours réclamé le juste prix, c'est-à-dire revenir sur la règle européenne de fixation du prix. C'est complètement différent. Retrouver des tarifs réglementés, mais les vrais, ceux qui tenaient compte, il y a encore quelques années, du coût réel de la production. Grâce à cela, vous auriez d'ailleurs fait économiser à la France des milliards d'euros et éviter que notre dette explose, non à la spéculation, mais oui à la souveraineté. Cela éviterait par exemple à Emmanuel Macron de déclarer, je cite, qu'il en avait assez de ceux qui faisaient des profits excessifs. Alors vous voyez, c'est très bien de pleurer sur le verre renversé, mais le mieux, c'est de pas renverser la casserole. Face à l'évidence, vous nous dites à présent que vous faites tout pour réformer ce mécanisme. Moi, qu'on puisse dire, c'est que c'est pas du rapide. Le patron du MEDEF, monsieur Roux-de-Bézieux, appelait il y a quelques jours Emmanuel Macron, à, je cite, engager un bras de fer avec l'Allemagne sur ce sujet, craignant au passage une nouvelle vague de désindustrialisation de la France si ce mécanisme européen n'était pas réformé. Ce qu'il y a, c'est que pour engager un bras de fer, eh bien, il faut de la volonté et du courage politique. Mes questions, est-ce que vous en avez ? Par ailleurs, en juillet 2023, c'est-à-dire dans 6 mois maintenant, il n'y aura plus de tarifs réglementés pour le gaz. Alors ma question est double. Que comptez-vous faire pour éviter l'asphyxie des ménages et des entreprises ?
Philippe Ballard, député de l'Oise, du côté de Beauvais. Il a 62 ans, c'est un ancien journaliste. Il a été à l'UDF. Pendant 10 ans, 20 ans, avant de rejoindre le Rassemblement National.
Monsieur le ministre de la Transition énergétique.
Et on écoute Agnès Pannier-Runacher qui va répondre à son tour sur le marché européen de l'énergie.
Madame la Présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Ballard, merci de me donner d'abord l'occasion de rappeler la politique du gouvernement. Une politique du gouvernement qui est la plus protectrice d'Europe pour les ménages français, puisque nous payons, puisque vous payez le prix de l'électricité le plus bas d'Europe, pour les très petites entreprises, puisqu'elles payent le prix de l'électricité le plus bas d'Europe, et pour les PME, puisqu'elles-mêmes bénéficient de la protection au travers de l'amortisseur et des aides du guichet de Bercy, les plus généreuses d'Europe. Pourquoi ? Parce que nous serons toujours aux côtés des Français et toujours aux côtés des entreprises, comme nous l'avons été ces dernières années, au bénéfice de la croissance, au bénéfice de l'emploi et au bénéfice de la souveraineté de notre économie. Vous m'interrogez sur la situation du marché européen. Je veux vous rappeler quelques données de base. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où nous importons de l'électricité. Aujourd'hui, nous avons la capacité à produire plus d'électricité sur le territoire français et un groupe, le vôtre, refuse de voter un projet de loi qui doit nous permettre de développer plus de capacité de production d'électricité. Alors pardon, monsieur le député Ballard, soyez cohérent et soutenez la souveraineté énergétique de notre pays.
Merci.
Ouais, en gros, elle dit on peut pas être pour la souveraineté quand on importe et être contre quand on exporte.
La parole est à madame...
Enfin, ou l'inverse, enfin, vous avez compris quoi.
Groupe écologiste.
Marie Pochon pour les écolos.
Madame la Présidente, messieurs, dames, les ministres, mes chers collègues. 2,3 millions de personnes mobilisées, une condamnation historique en 2021 qui exhortait l'État français à prendre toute mesure utile pour le climat avant le 31 décembre 2022. Madame la Première ministre, cela vous rappelle peut-être quelque chose. Oui, c'était l'affaire du siècle.
Ah.
Ce siècle débute encore et devrait se terminer désormais à plus 4 degrés. Et cette affaire n'a jamais aussi bien porté son nom.
Il n'y avait pas une émission sur Twitch sur l'affaire du siècle ?
3% ces émissions de gaz à effet de serre sur le premier semestre 2022. Elle est devenue, faute d'une vision claire de notre autonomie énergétique, Cocorico, le plus grand importateur de gaz de schiste américain, tandis que cette année est définitivement la plus chaude jamais enregistrée. Sécheresse, incendie, perte agricole, absence de neige auront eu au moins un point positif. La prise de conscience pendant ses vœux de notre président de la République, qui semblait découvrir les impacts des changements climatiques.
Ah, c'est le fameux « qui aurait pu le produire ?» Voilà.
Qui aurait pu prédire ? À l'évidence, Madame la Première Ministre, les 99% des scientifiques du monde, les 27 COP, le GIEC depuis 1988, les associations et experts qui alertent pour que nous, vous, représentants politiques, puissiez agir avec toutes les cartes en main. Qui aurait pu prédire ? Ces mots sont la preuve d'un déni de responsabilité de politique hors sol face à la crise climatique et l'effondrement de la biodiversité, qui concerne, plus que tout autre sujet que nous discuterons dans cette Assemblée, tout simplement notre capacité, dans quelques dizaines d'années, à vivre sur cette terre. Nous vivons dans le monde de demain avec la société d'hier. Deux condamnations pour inaction climatique, zéro objectif concret dans le texte d'accélération des énergies renouvelables. Et pourtant, ce sont celles et ceux qui se font la voix de l'urgence d'agir qui sont accusés, surveillés, condamnés. Vous en faites des criminels, des éco-terroristes. Mais les criminels ne sont-ils pas plutôt ceux qui regardent le monde s'enflammer en restant les bras croisés ? Madame la Première Ministre, votre gouvernement bafoue les lois de la République en refusant d'exécuter ses obligations légales.
Merci beaucoup.
Comment osez-vous mener...
Marie Pochon, elle est députée de la Drôme. Elle a 32 ans.
Merci. Je vous remercie.
C'est l'ancienne collaboratrice parlementaire d'une députée européenne qui s'appelle Marie Toussaint. Marie Pochon, qui est vice-présidente de la mission d'information sur l'adaptation au changement climatique de la politique
mesdames et messieurs les députés
forestière et de la restauration des milieux forestiers. On écoute Agnès Pannier-Runacher qui lui répond sur la prise en compte de l'action climatique.
2015 et 2018. Un gouvernement auquel votre groupe politique participait et dans lequel il avait un rôle instrumental sur ce sujet-là, sous la responsabilité du président Hollande. Vous m'interrogez sur ce que les gouvernements de président Macron ont fait pour rattraper le temps perdu et corriger votre inaction climatique, et je vais vous répondre. Dès 2018, le rythme de réduction des gaz à effet de serre a été multiplié par deux par rapport à votre bilan. Depuis 2018, la France a voté un agenda de réformes ambitieuses en matière écologique, accélération de la décarbonation de l'industrie, une économie de 5 millions de tonnes de gaz à effet de serre par an, interdiction de la location des passoires thermiques, plan pour développer les mobilités vertes, petites lignes de train, vélo, covoiturage, effort sans précédent de rénovation thermique des bâtiments publics et de logements, plan sobriété ou plus récemment, un plan d'accélération des énergies renouvelables dont vous avez annoncé que vous ne voterez pas le volet législatif. Je ne reviendrai pas enfin sur l'action décisive de la France pour faire adopter le paquet climat au niveau européen. Alors, Madame la députée Pochon, en matière d'action climatique, il y a ceux qui parlent et ceux qui agissent. Vous avez encore la possibilité d'être dans cette deuxième catégorie en votant le projet de loi d'accélération des énergies renouvelables.
Les écolos ont l'intention de s'abstenir sur ce projet de loi énergies renouvelables. Ils ne le voteront pas, mais ils ne voteront pas contre non plus.
Merci.
Nathalie Serre pour Les Républicains.
Ma question s'adresse à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Monsieur le ministre, mardi 3 janvier dernier, à Écully, commune de ma circonscription située sur la métropole lyonnaise, un homme a été tué au pied d'un bâtiment abritant un centre social, une crèche et une école à l'heure de la sortie des écoles. Sur fond de trafic de drogue, ce drame n'est malheureusement pas le premier et ne sera certainement pas le dernier. Dans tout l'Hexagone, ces situations se multiplient. Que ce soit à Marseille, à Nantes, à Lyon ou même à Mayotte, la violence est quotidienne. La politique de la ville menée depuis 2014 laisse ces quartiers gangrénés par toutes sortes de trafics, à l'abandon et sans perspective.
Ce qu'on appelle la politique de la ville, c'est la politique prioritaire et coordonnée dans les quartiers les plus pauvres.
La politique de la ville en 2015 a eu pour seul effet de sortir plus de 800 quartiers difficiles des radars. On a simplement caché la poussière sous le tapis. Aujourd'hui, les services de secours, les médecins et même les forces de l'ordre sont reçus à coups de tir de mortier ou de jets de parpaings. Les habitants de ces quartiers ont besoin de vous. En 2021, le nombre de victimes par homicide était en hausse, tout comme celui des victimes des coups et blessures volontaires. Quand allez-vous prendre la mesure de l'exaspération des Français ? Quand l'État va-t-il décider de reconquérir ces territoires abandonnés ? Quand allez-vous donner aux forces de l'ordre les moyens légaux et matériels de combattre les trafiquants ?
Nathalie Serre, elle est députée du Rhône, elle a 54 ans. Et elle pose une question sur l'augmentation de l'insécurité dans sa circonscription et dans les quartiers prioritaires. On écoute le ministre de l'Intérieur sur la lutte contre l'insécurité, les règlements de compte, le trafic de drogue.
Je peux partager un certain nombre de constats, notamment le fait que la loi de 2014 n'était pas une bonne loi. Vous avez parfaitement raison, j'ai d'ailleurs voté contre lorsque j'étais dans cet hémicycle, puisque la politique de la ville mise en place alors par ce gouvernement a fait par carrillage de 100 mètres par 200 mètres sortir des radars de la politique de la ville. Vous avez raison, un certain nombre de quartiers dits difficiles qui soient faits des quartiers populaires.
Ah, c'était la loi Lamy.
Davantage de République.
La loi socialiste, oui.
En revanche, je peux être moins d'accord avec vous, c'est lorsque vous comparez les chiffres, en ne citant d'ailleurs sans doute de façon exprès, j'imagine, que l'année 2021. Puisqu'en 2022, Madame la députée, vous auriez dû noter que la délinquance baissait, et singulièrement au deuxième semestre de cette année 2022. Si je prends l'exemple de ces trois derniers mois que nous avons vécu, puisque vous multipliez les exemples, il s'agit de moins 15% de vols avec violence. Il y a 18 homicides en moins dans le trimestre dernier par rapport à l'année d'avant. Et il y a effectivement moins 30% de points de deal sur le territoire national, avec plus de 200% parfois d'opérations antidrogue. C'est 2000 opérations antidrogue par mois qui sont menées dans notre territoire, à commencer par le vôtre, Madame la députée, puisque dans le Rhône, c'est moins 50% de violence dans les transports et moins 30% de vols de violence et d'atteinte aux personnes. Nous devons continuer ce travail, et c'est en augmentant les effectifs de la police et de la gendarmerie que nous y arrivons. Dans le Rhône, par exemple, Madame la députée, c'est 3 fois plus de policiers et de gendarmes dans la métropole lyonnaise qui nous permet d'obtenir ces objectifs. Oui, les policiers et gendarmes font un travail important. Paris ni Lyon ne s'est pas fait en un jour. Nous continuons. Merci de votre soutien.
C'est ironique.
Ministre, Madame Serre.
Oui, Monsieur le Ministre, merci pour votre réponse. Mais dans les transports, c'est accessoirement la région et Monsieur Wauquiez qui pallie aux difficultés de.
Ah bah pas suffisamment visiblement.
Dans les transports, il faut quand même. La violence et l'ultra-violence se banalisent. Les habitants ont besoin de sécurité. Les maires ont besoin de l'engagement et du soutien de l'État. Monsieur le ministre, c'est tout simplement ce qu'on attend d'un État de droit.
Merci
c'est tout
beaucoup,
ce qu'on demande.
Merci beaucoup, ma chère collègue, monsieur le ministre.
Merci, madame. Mais monsieur Wauquiez n'a rien à voir dans l'affaire. Les policiers, c'est l'État français qui les met dans les métros, dans les bus, dans les lignes de tram. Vous pourriez remercier l'État, madame. Et vous savez, vous ne combattrez pas le Front National, malheureusement, en faisant un tableau noir de la situation.
Quand on est poli, on dit merci.
Vous permettrez aux policiers et aux gendarmes de faire un travail admirable en remarquant leurs bons résultats. Et nier les bons résultats d'aujourd'hui, madame, c'est nier le travail des policiers et des gendarmes. C'est pas, je crois, du niveau de la représentation nationale.
Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Luc Lamiraud pour le groupe Horizon.
Merci, madame la présidente.
Luc Lamiraud.
La question s'adresse au ministre de l'économie.
Le groupe Horizon, je vous rappelle, c'est le groupe des députés qui sont proches d'Edouard Philippe.
Plusieurs mois, avec le groupe Horizon et apparenté, le principe d'une résiliation à tout moment et sans frais des contrats de fourniture de gaz, d'électricité pour les entreprises et les collectivités territoriales. Beaucoup ont effectivement été contraintes de souscrire à l'automne des contrats sur la base de prix exceptionnellement élevés qui les placent aujourd'hui dans une situation intenable.
Il y a un autre truc qui est mensuel, c'est l'abonnement à la chaîne Twitch de Jean Massier. Vous pouvez renouveler tous les mois, vous pouvez même vous abonner gratuitement avec Amazon Prime. C'est incroyable.
Et que je tiens à saluer. D'abord avec la possibilité donnée aux artisans boulangers de résilier sans frais et à tout moment leur contrat. Puis avec l'étendue du bouclier tarifaire à 600 000 très petites entreprises, afin que leurs factures n'excèdent pas un tarif de 280 € le mégawatt en moyenne sur l'année. S'il est certain que ces mesures d'urgence que nous appelions de nos voeux...
Je ne fournis pas d'électricité, je fournis de la dopamine.
Envisagez-vous, monsieur le ministre, un mécanisme plus pérenne pour qu'à l'avenir, les petites et moyennes entreprises ne soient plus captives sur la durée de prix anormalement excessifs. Quant aux collectivités territoriales, le filet de sécurité défendu par le groupe Horizon permet un premier soutien. Pour autant, elle reste contrainte, dans le contexte actuel, de fermer l'accès à des équipements et services publics essentiels et de leur réduire leurs investissements. Aussi, envisagez-vous, Monsieur le Ministre, d'étendre aux collectivités la portée des récentes annonces.
Je vous remercie. La parole est à Monsieur Roland Lescure, ministre délégué chargé de l'Industrie.
Alors Roland Lescure, qu'est-ce qu'il en dit du coup de ces contrats annulables ?
Votre question et surtout merci pour vos alertes. On a eu l'occasion, oui, tous les deux dans le cadre d'un déplacement à Agen il y a une dizaine de jours d'évoquer à nouveau ce sujet.
Je m'en souviens, oui.
Partie des membres de la majorité qui nous ont alertés très tôt sur, oui, le fait que les dispositifs que
c'est
nous
froid, par contre,
déjà annoncés devaient sans doute faire l'objet d'un élargissement et d'un renforcement pour notamment les très petites entreprises, les boulangers et autres, qui du fait de la très forte hausse des prix de l'énergie observés à l'automne dernier, à un moment où certains d'entre eux devaient renégocier les contrats, s'étaient retrouvés dans des contrats qui faisaient l'objet de hausses, pardon, extrêmement fortes. Vous l'avez dit, à la fois alerté par certains d'entre vous et sur l'impulsion du président de la République, nous avons annoncé vendredi des réponses extrêmement fortes qui font qu'aucune des TPE de France, quel que soit le contrat dans lequel elle est entrée, pourra avoir un bouclier tarifaire qui, de fait, plafonnera son tarif moyen de l'électricité à 280 € le mégawatt pour l'année 2023. Et ce, c'était important, sans passer par une renégociation des contrats qui risquait, devant le nombre de TPE concernés, d'emboliser à la fois les TPE elles-mêmes. Renégocier un contrat, ça prend du temps, et les fournisseurs d'énergie, dont nous souhaitons qu'ils soient avant tout au service de leurs clients. Et donc cette révision des contrats généralisés va permettre de baisser les factures de manière extrêmement forte et de retrouver des prix beaucoup plus viables. Je le répète, l'économie française aujourd'hui résiste extrêmement bien au choc énergétique auquel l'ensemble de l'Europe fait face. C'est en grande partie grâce aux mesures annoncées et adoptées par le gouvernement. C'est aussi en grande partie lié à la résilience de notre tissu industriel et commercial qui résiste très bien. Remercions-les pardon, tous et toutes, et continuons à suivre les dispositifs. Vous avez évoqué éventuellement quelques dispositifs adaptés. Voyons comme ça évolue. Mais pour l'instant, on a vraiment une économie française qui résiste bien. Félicitons-nous et continuons à suivre le dispositif. Merci.
Merci beaucoup. Bon,
un peu d'autosatisfaction.
Monsieur le ministre, la parole est à monsieur Frédéric Mathieu.
Frédéric Mathieu pour les Insoumis. Frédéric Mathieu.
Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, ma question s'adresse à Madame la Première Ministre. Le 23 décembre dernier, un homme déjà condamné pour des violences racistes a ouvert le feu au centre culturel kurde de Paris, faisant 3 morts et plusieurs blessés.
C'est vrai qu'on n'en avait pas parlé encore.
D'ailleurs, pour assurer les familles de victimes de mon entière solidarité. Le 23 décembre, donc, la thèse vite propagée était celle d'un racisme pathologique. S'il convient de souligner que le racisme n'est pas une maladie mais un délit qui a conduit ici au crime d'assassinat, la similitude avec le triple assassinat du 9 janvier 2013 pose question. Le local de la rue d'Anguin est certes public, mais le jour et l'heure de l'attentat correspondaient initialement à un rendez-vous qui devait réunir plusieurs dizaines de représentantes kurdes. Tout comme en 2013, l'individu est isolé. En 2013, les jours de l'assassin atteint d'une tumeur au cerveau étaient comptés. En 2022, l'assassin était maîtrisé avant de tenter de mettre fin à ses jours. Tout comme en 2013, sont visées des personnes impliquées dans la communauté kurde. Comme nous savons désormais que l'attentat de 2013 porte l'empreinte des services secrets turcs, l'identité du mode opératoire doit vous inciter à considérer très sérieusement la piste d'une nouvelle ingérence de la Turquie. Entendez-vous travailler cette hypothèse qui pose autant une question de souveraineté que la question de la sécurité des ressortissants d'un peuple ami qui paye déjà très cher sa simple existence en Turquie? En ce cas, entendez-vous réduire le secret défense au strict minimum pour que les familles des victimes ne soient pas confrontées à la même absence de réponse?
Pour ceux qui ne le savent pas, les Kurdes font partie des militants les plus opposés à Erdogan à l'est de la Turquie. Ils subissent une répression terrible de la part du gouvernement d'Erdogan. Frédéric Mathieu, député d'Ille-et-Vilaine à Rennes. Il a 45 ans, il a bossé au ministère des Armées. Frédéric Mathieu, qui pose une question donc sur les suites de cet attentat terrible dont ont été victimes des militants kurdes.
Monsieur le député, je veux également moi aussi, comme je l'ai fait le jour même de ces horribles assassinats, apporter aux familles des victimes et aux Kurdes en particulier, bien évidemment, plus sincères condoléances et notre accompagnement. Monsieur le préfet de police, monsieur le garde des Sceaux a pu recevoir d'ailleurs les représentants à plusieurs reprises de la communauté kurde et notamment de ceux qui étaient particulièrement touchés rue d'Anguin. Je veux aussi remercier les personnes qui ont arrêté.
La rue d'Anguin, c'est la rue où a eu lieu cet attentat.
Et
j'ai habité juste la rue d'à côté pendant 10 ans.
Et les forces de police qui sont extrêmement rapidement arrivées et les forces de secours qui ont pu, je crois, limiter, si tant est que cela puisse être un mot possible, le bilan extrêmement meurtrier de cette tuerie. Je veux aussi vous dire, monsieur le député, que nous avons pris, bien sûr, toutes les mesures de protection de la communauté kurde, de leur lieu culturel, mais aussi, et après une longue discussion, bien sûr, avec l'ensemble des préfets, des manifestations qui en sont suivies pour exprimer leur colère ou faire montre de leurs condoléances. Je peux cependant, monsieur le député, être surpris par vos propos. Ce n'est pas dans un état de droit au ministre de l'Intérieur ou au gouvernement français que d'étudier des pistes, mais c'est aux magistrats. Et les magistrats agissent indépendamment de toute action politique. Et ce sont les magistrats qui se saisissent et qui d'ailleurs qualifient eux-mêmes les faits, terroristes ou pas terroristes, et qui creusent telle ou telle piste. Et il me semble, monsieur le député, qu'en posant la question comme vous la posez, soit vous ignorez totalement l'état de droit et où vous pensez que le ministère de l'Intérieur commande des enquêtes judiciaires, soit, monsieur le député, malheureusement, vous utilisez ce drame ignoble pour faire croire que l'État français a des choses à cacher et ne creuse pas cette piste. Je vous demande, monsieur le député, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, de respecter les principes de l'état de droit et de laisser les magistrats faire le travail sans aucune pression politique de nulle part.
Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole est à madame Pascale Borde pour le Rassemblement national.
Pascale Borde pour le RN après cette espace d'armes entre Gérald Darmanin et la France insoumise.
Excusez-moi, mon cher collègue, juste 10 secondes.
Ah, il y a une réplique. Allez-y. Il lui restait un peu de temps.
Madame la Présidente, je suis scandalisé par vos propos, monsieur le ministre. Personne n'est en train d'instrumentaliser ce drame. Et sachez d'ailleurs, et vous y êtes invité, que le 12, j'organise avec le CDKF un colloque le 12 janvier ici pour lever ce secret défense concernant, pour aboutir
merci
à la vérité que la justice.
Merci beaucoup. Donc la parole est à vous, madame Borde, pour le Rassemblement national.
Oui. Alors, Pascale Borde pour le Rassemblement national.
La question s'adresse à monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le ministre, je me suis rendu il y a quelques jours dans un hôpital de ma circonscription à Bagnols-sur-Cèze dans le Gard.
Ah, ça va mieux.
De soignants qui font un travail extraordinaire avec des moyens matériels et humains indigents. Les urgences de cet hôpital sont saturées. L'hôpital est en pénurie de professionnels dans tous les secteurs, ce qui a conduit à la fermeture de lits. Alors que cet hôpital souffre d'un manque cruel de lits, les brancards s'accumulent dans les couloirs, laissant les patients côte à côte dans une promiscuité peu compatible avec leur état médical.
Pascale Borde, elle a 61 ans, elle est avocate au barreau de Nîmes, elle est députée du Gard, donc vous l'aurez compris. Et elle pose une question au ministre de la Santé sur l'état de l'hôpital. Je reprends une pause rapide avant de conclure cette séance, c'est dans pas très longtemps.
La maltraitance
et on a plein de trucs à se dire.
L'inhumanité.
Merci pour le sub offert à Valérie Pécresse.
Des patients, a fortiori des patients âgés. La situation est d'autant plus critique que la population est vieillissante et que, de fait, les personnes âgées sont de plus en plus nombreuses à venir aux urgences. Nous ne devons plus accepter la maltraitance des patients, la surcharge des urgences étant, et ceci est largement prouvé, responsable d'une augmentation de la morbimortalité. Ces mots sont de vous, monsieur le ministre, lorsque vous étiez président d'un syndicat SAMU Urgences de France. Notre système de soins est à bout de souffle, vous en avez fait le constat. Et il faut sans attendre prendre des mesures afin de rétablir des conditions de soins décentes et sécuritaires avant qu'il ne soit trop tard et que ne se multiplient des situations que nous redoutons tous, à savoir des décès, faute d'avoir pu être soignés à temps ou d'avoir pu être soignés dans de bonnes conditions. Il en va de votre responsabilité en tant que ministre, il en va de la responsabilité du gouvernement, il en va de notre responsabilité de parlementaire, il en va de l'honneur de la France. Je souhaiterais donc savoir, monsieur le ministre, si vous comptez prendre enfin, dans un avenir très proche, des mesures permettant de mettre un terme dès à présent à cette maltraitance des patients et des soignants. Merci et ce beaucoup. Sans attendre une refondation du système.
Merci beaucoup, monsieur le ministre de la Santé et de la Prévention.
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Borde, je vous remercie de votre diagnostic qui malheureusement est connu et contre lequel nous avons beaucoup d'actions à faire. Vous auriez pu également reconnaître les actions qui sont faites depuis 6 mois quand même dans le cadre de l'été que tout le monde nous a annoncé cataclysmique et que nous avons réussi à passer avec bien sûr l'appui des professionnels de santé sur le terrain. Alors, je l'ai dit, mon objectif c'est bien sûr de prendre soin des Françaises et des Français, mais c'est aussi de prendre soin des soignants qui eux sont auprès de nos concitoyens tous les jours. 3 axes, simplifier, collaborer, valoriser dans le cadre de ces missions de santé publique auprès des soignants. Alors plusieurs solutions ont été, en tout cas pistes, ont été dessinées par le président de la République le 6 janvier dernier. Gagner du temps de soins, je n'y reviens pas. Travailler sur l'organisation collective à l'échelle humaine, collective à l'échelle des territoires, c'est ce que nous avons fait depuis quelques mois avec le Conseil national de la refondation en santé qui nous a permis d'identifier des pistes spécifiques pour chaque territoire. L'organisation au sein de l'hôpital, à l'échelle des services, là aussi pour redonner du sens. Et puis l'organisation au plus près des individus sur le suivi de leur carrière, ça a été dit, leur qualité de vie. Et ce pacte que je souhaite passer avec les élus des territoires pour améliorer la qualité de vie des soignants en ce qui concerne les transports, les logements et toutes les aides qu'on peut leur apporter. C'est ce qui était d'ailleurs dans le PLFSS sur ce principe de guichet unique. 3e point, la permanence et l'universalité des soins en reconnaissant les besoins, en reconnaissant la pénibilité, en faisant enfin tomber les barrières entre la ville et l'hôpital, entre les hôpitaux et les cliniques, entre les différents professionnels de santé. C'est ce que nous avons fait pendant le Covid et qui nous a permis de passer cette crise Covid. Il faut le retrouver. Enfin, reconnaître, nous n'avons pas beaucoup parlé, le rôle du médecin traitant généraliste. Les aides par le guichet unique, cette responsabilité territoriale pour la permanence des soins, le déploiement et continuer le déploiement du service d'accès aux soins, merci, travailler sur les rendez-vous non honorés, nos concitoyens qui n'ont pas de médecin traitant. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Laurent Panifous pour le groupe Liberté Indépendant Outre-mer et Territoires.
Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de la Santé et les Urgences encore. Oui, cette année encore, la période des fêtes de fin d'année a été marquée par de grandes difficultés pour les services des urgences sur tout le territoire national. Ce n'est pas nouveau, début juin, ça a été dit, le syndicat SAMUL Urgences de France alerté sur la situation déjà fortement dégradée. 120 services d'urgence hospitalière répartis sur une 60aine de départements sont confrontés à d'importants dysfonctionnements. Parmi eux figurent les hôpitaux de mon département, le Chiva et le Chac. Les indicateurs en Ariège sont parmi les plus mauvais. Par exemple, l'agglomération de Saint-Girons, passée de 21 médecins en 1980 à 6 médecins aujourd'hui, se voit en plus confrontée à la fermeture partielle de son service d'urgence environ 5 jours par mois, faute de médecins.
Laurent Panifou, il est député de l'Ariège. Il a 46 ans, il est directeur d'un EHPAD.
Les services de régulation.
Un établissement d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes.
6% de hausse de passage en urgence et le taux d'hospitalisation de nos hôpitaux a augmenté, lui, de 18%. En cause, à la fois le vieillissement de la population et la désertification...
Et il siège au sein du groupe Les Indépendants.
Pour la population.
En fait, c'est un dissident PS qui a été... C'est un dissident du PS qui a été élu face au candidat investi par le parti et donc il ne peut pas siéger au sein du groupe socialiste.
Ce qui ressemble non
donc il siège dans un autre groupe qui est le groupe des Indépendants.
Mais bien à de la misère médicale. L'égalité d'accès aux soins n'est absolument plus assurée aujourd'hui en Ariège et dans beaucoup d'autres territoires français. Ce sont à la fois les soignants, parfois contraints d'opérer des sélections pour réguler l'entrée des patients, et la population qui manifestent leur plus vive inquiétude. Face à l'extrême tension du service des urgences et au burn-out du système hospitalier après 2 années de pandémie, l'heure n'est plus à la réflexion. Monsieur le ministre, pouvez-vous me dire comment votre gouvernement peut intervenir sans attendre, concrètement, pour garantir aux Ariégeois, aux Français, confrontés aux mêmes difficultés, l'accès à un service d'urgence digne d'un pays développé. Je vous remercie.
Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à Monsieur François Braun, ministre de la Santé et de la Prévention.
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Panifou, je vous remercie d'avoir souligné ce principe de difficultés au cours de cette fin d'année avec bien sûr des absences des médecins, mais aussi fin d'année avec cette triple épidémie. J'aurais tendance à y revenir sur les gestes barrières et la vaccination, mais je sais que vous avez largement entendu
oh, oui.
Cette difficulté des services d'urgence, vous la chiffrez de quelques années. Elle est beaucoup plus ancienne, malheureusement, et j'en sais directement quelque chose. Et elle est liée à une difficulté au niveau de la médecine de ville. Elle est liée aussi à un dysfonctionnement au sein de l'hôpital. Elle est surtout liée avec une diminution globale de l'offre et une augmentation des besoins par le vieillissement de la population et par les améliorations de la médecine. Alors, vous parliez d'indicateurs. Je serais bien sûr ravi de discuter avec vous de cette problématique ariégeoise que je connais un petit peu pour bien connaître des collègues qui sont là-bas. Mais je veux aussi surtout revenir sur cette notion de besoin de soins plus que cette notion d'offre. Je pense que certes il y a des densités différentes, mais c'est surtout sur les besoins et la façon dont nous allons reconstruire la réponse à ces besoins. Vous avez parlé de la régulation médicale. Oui, la régulation médicale est une des solutions. Le président de la République l'a annoncé. Nous allons généraliser l'ensemble des services d'accès aux soins en y mettant des moyens humains, des moyens matériels, parce que cette régulation médicale est le meilleur moyen d'orienter pertinemment les patients dans le parcours de soins. Les régulations médicales du service d'accès aux soins savent où sont les réponses, savent quels professionnels ils peuvent mobiliser, et nous allons là aussi continuer ce qui a été mis en place cet été, à savoir valoriser les professionnels de santé qui acceptent de prendre en charge des patients dans le cadre des soins non programmés, tout cela pour diminuer la pression en amont des services d'urgence. Également au niveau de l'aval, la réorganisation de l'hôpital dont je parlais tout à l'heure autour des services va permettre là aussi de plus mobiliser sur la réponse aux soins non programmés, pas seulement au niveau d'un établissement mais au niveau d'un territoire, en embarquant, si je peux m'exprimer ainsi, l'ensemble des professionnels et des établissements du territoire. Donc merci, vous le voyez beaucoup. Nous sommes dans une logique d'action, le diagnostic est connu, maintenant nous appliquons le traitement.
Merci beaucoup, Monsieur le Ministre.
Il y a un gros plan de réduction des charges administratives à l'hôpital.
Bagnier pour le groupe démocrate.
Géraldine Bagnier pour le MoDem.
Ma question, la dernière, s'adresse au ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. Monsieur le Ministre, une étude du service statistique de votre ministère indique qu'environ 21% des élèves âgés de 15 ans n'ont pas un niveau suffisant de compétences en compréhension de l'écrit, culture mathématique et culture scientifique.
Bah alors les ados, vous n'êtes pas compétents.
Avec des chiffres allant de 22,3 à 22,9%.
Si vous passiez moins de temps sur Twitch et sur TikTok.
Cela reste malgré tout inquiétant. Pour rappel, sur une même dictée de 67 mots, sans complexité extrême à la pivot, proposée à 4 générations depuis 1987, on est passé de 10,7 fautes à 19,4 en 2021.
On dit pas faute, on dit erreur.
7% des examinés ont même commis plus de 25 erreurs. Comme professeur de français, je peux vous le dire en toute franchise. On nous demande à présent en collège, sans doute pour notre survie, de ne plus corriger l'ensemble d'une copie de rédaction. C'est pour dire. À cela s'ajoute une perte de vocabulaire. Le linguiste Bentolila a indiqué en 2015 que 10% de la population française ne maîtrise que 400 à 500 mots contre 5000 en moyenne pour la majorité des Français. Pour les mathématiques, le classement PISA indique des résultats légèrement supérieurs à la moyenne, mais nous restons tristement le pays numéro un des inégalités.
Géraldine Bagnier, elle est députée de la Mayenne, du côté de Laval. Elle a 43 ans, elle est prof de lettres.
Ou l'Allemagne, avec...
Elle est vice-présidente de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation, et elle pose une question sur l'effondrement du niveau en français
que j'étais dans les années
90, des collégiens.
Sous le ministère de François Bayrou, bénéficiait de plus d'heures de français. En 40 ans, en primaire et collège, un élève a perdu 522 heures de français. Je tiens, comme président du groupe Livre, à rappeler le rôle que nous avons tous à promouvoir la lecture et la vigilance que nous devons avoir pour que soient préservées des grignotages les heures dédiées aux apprentissages fondamentaux. Pouvez-vous revenir, Monsieur le Ministre, sur les mesures annoncées pour répondre à ce difficile constat et compléter votre réponse précédente ?
Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à Monsieur Papendiaï.
Alors, qu'est-ce qu'on fait pour éduquer les gosses ?
De la jeunesse.
Parce qu'ils sont vachement cons, quand même. Hein.
Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame les députées Bagnier. Je partage évidemment le constat sévère, mais il faut regarder la vérité en face à propos des savoirs fondamentaux. Ces dernières années, un travail important a été mené pour les premières années de l'école primaire, du côté du cycle 2, en particulier des travaux qui ont donné des résultats intéressants, on le voit en particulier en éducation prioritaire. Nous devons mettre désormais l'accent sur le cycle 3, c'est-à-dire le cours moyen et la sixième, vue dans un ensemble. Or, comme je l'indiquais précédemment, un rapport de l'inspection générale a mis le doigt sur un certain nombre de difficultés dans les apprentissages en français et en mathématiques. Je ne prendrai qu'un exemple, c'est la question de la rédaction, la question de l'écriture, qui n'occupe que 7% du temps en CM2, ce qui est évidemment insuffisant. Nous devons donc mettre l'accent sur la formalisation des apprentissages, la diversité et la régularité des productions écrites, et en mathématiques, la résolution des problèmes et le calcul mental. En sixième, comme je l'ai indiqué, c'est une année charnière parce que c'est le lieu de la grande divergence,
bah ouais.
C'est-à-dire le moment où les trajectoires
arrivées au collège
divergent entre les élèves.
Les divergent, ça fait beaucoup. Hein.
Trajectoire normale et puis ceux qui vont plonger un quart des élèves en sixième que l'on retrouve en troisième. C'est pourquoi nous devons mettre l'accent en sixième sur un travail extrêmement précis sur les fragilités que nous allons identifier, que nous identifions grâce aux évaluations de sixième, de manière à pouvoir travailler soit sur l'orthographe, soit sur la grammaire, soit sur les quatre opérations, et résoudre et travailler sur ces fragilités sur l'ensemble de l'année de sixième. D'autres mesures viendront en cinquième, en quatrième et en troisième pour faire du collège un lieu qui ne soit plus le lieu...
Bon, ceci étant, il répond bien, Papendiaï, en disant on met le paquet sur le troisième cycle, le cours moyen, la sixième...
Du côté du lycée général et technologique ou bien du lycée professionnel.
Merci, monsieur le ministre.
Merci.
Merci beaucoup. La séance des questions au gouvernement est terminée. Elle est suspendue. Je vous propose de reprendre à 17h15.
Ouais.
Solennel sur le projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergie renouvelable.
Des bisous. Voilà, c'est la fin de cette séance de questions d'actualité au gouvernement. Vous voyez les ministres et les députés qui se lèvent et qui s'apprêtent à se barrer. Beaucoup de députés ont déjà quitté la séance pour retrouver leur bureau dans lequel ils ont pu se connecter au stream de la chaîne Jean Massier. Les députés qui sont dans les starting blocks pour suivre l'annonce par le gouvernement du contenu de la réforme des retraites qui va être présentée par Elisabeth Borne en direct sur Twitch. Ça va, ça vous a plu? Attends, incroyable. Bon, séance de questions d'actualité au gouvernement qui a été quasiment intégralement consacrée au sujet hôpital suite aux annonces d'Emmanuel Macron à la rentrée et à la crise de l'énergie, les boulangers, les baguettes, combien qu'on va payer notre pain. Voilà. Et donc, comme je vous le disais, dans 20 minutes, c'est la présentation tant attendue de la réforme des retraites. Il en a été un peu question aussi de la réforme des retraites au demeurant d'ailleurs dans cette séance. Hop. Ah, ta gueule. Où est-ce que je vais trouver le live? Alors, je crois que le gouvernement, c'est un peu des boomers. Ils balancent les lives sur Facebook. Elisabeth Borne. Ich. Le Twitter d'Elisabeth Borne. Pif, paf, pouf. Hop. Toum. Voilà. J'ai le Facebook. Hop, voilà, on attend le direct. C'est dispo sur YouTube, sur la chaîne du gouvernement. Ah ouais, mais je la vois pas annoncer la truc. Ah putain, ça lance une vidéo automatiquement, c'est chiant. Non, je la vois pas annoncer le live. C'était bien, mais j'ai moins apprécié la réponse du gouvernement quant à la refonte de la classe LOP dans Dofus et Wakfu. Ouais, non, mais je suis d'accord. Non, c'était complètement à côté de la plaque. Dans l'onglet en direct. Ah, c'est juste. C'est bien vu. Le mec est smart. Let's go. Eh ben, on attend. Donc, séance de questions au gouvernement, tout ça, ça vous a plu? Il a dit l'op. Non, yop, j'ai dit yop. Niquez-vous au bout d'un moment. Pas tant de questions sur les retraites. Bah non, pas tant de questions sur les retraites parce que les députés, ils attendent de voir et de connaître le sujet de la réforme, d'autant qu'on sait qu'il y aura largement l'occasion de discuter de cette réforme quand elle arrivera dans l'hémicycle. Elisabeth Borne a annoncé que ce serait adopté en Conseil des ministres le 20 janvier, je crois, dans 10 jours, c'est ça? Et que ça arriverait dans la foulée à l'Assemblée nationale. On verra quelle sera la méthode utilisée, même si on s'en doute un peu. Elle a, en revanche, annoncé qu'il y aurait bien la reprise d'une proposition d'augmenter les petites retraites à 1 200 €, 85% du SMIC, pour une carrière complète, donc 40 annuités. Enfin, ça dépend de la carrière complète, ça dépend de machin, etc.